Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SmartFire. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai la chance de recevoir Max Altenhoven, le préparateur physique de l'équipe pro de handball des Phoenix Toulouse et qui n'est autre que le préparateur physique le plus suivi en France en ce moment sur Instagram. Un garçon, comme vous allez le découvrir, avec des super valeurs, une super éthique de travail et surtout énormément de choses à vous apprendre et à partager sur la prépa physique. Sans plus attendre, Max Altenhoven.
Max, salut.
Antoine, bonjour, merci.
Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est dans un lieu complètement exceptionnel. Raconte-nous un peu où on est et pourquoi.
Bon, mais trop bien déjà que tu le trouves exceptionnel. On est dans le Palais des Sports, l'équipe du Phoenix Toulouse Handball, qui est une équipe de D1 de Star League. Et on évolue ici, on s'entraîne là, on joue là, et on a tout vraiment qui est autour.
Ok. Bon, on est ici parce que c'est toi le prépa physique de l'équipe.
Ouais.
Ok. Vous êtes plusieurs, peut-être ?
On est deux, mais okay. Pas plusieurs comme dans les équipes au Stade Français où tu as pu, okay. aller, pardon, mais ouais.
Et où les mecs sont 5-6 et il y a des plus gros staff.
Exactement.
Ok, tu sais que j'arrive ici extrêmement humble parce que je ne connais rien au handball.
C'est pas grave, hein.
Ouais. Genre vraiment rien.
Dis-toi, quand je suis arrivé il y a 8 ans ici, on va en parler je pense après, ouais. Mais je connaissais rien du tout non plus. Okay, à la base, je suis rugby, football. Et j'arrive là un peu comme toi, il y a 8 ans, si on fait une rétrospective. Et...
Ok, c'est donc un peu là-dessus que je voulais t'amener parce que dans le métier de prépa physique, il y a quand même des interventions qui sont très différentes et très spécifiques à chaque fois en fonction des sports que tu vas investiguer. Et à moins d'être vraiment spécialiste d'une discipline et de débarquer dedans pour arriver à y bosser, bah, tu n'es pas forcément acculturé à toutes les subtilités de la pratique, du jeu, de l'entraînement, etc. Ça, c'est des trucs, je pense, qui s'apprennent sur le terrain.
Sur le terrain, et pour te dire, il y a pas mal de similitudes dans les sports co, tu sais, basket, handball, ouais. Rugby. Mais quand je suis arrivé là, j'ai dû... en amont, manger 30-40 matchs, plein d'analyses vidéo, de la tactique, bref, plein de choses pour arriver à être un peu moins ignorant, tu vois, ou débutant. Parce que t'as des gars, ils sont pros, hein, c'est leur vie. Toi, t'arrives, c'est bien, t'as 20 ans, mais il faut direct faire ses preuves et être carré, quoi.
Ok, on peut faire une petite rétrospective sur ton parcours ?
Carrément.
Comment t'en es arrivé là ? Ce que t'as fait, éventuellement les formations que t'as suivies, comment t'en es arrivé à la personne que t'es aujourd'hui avec le contenu que tu proposes et ce que tu fais auprès de tes athlètes, ça m'intéresse vachement.
En préparation physique du coup ?
Ouais, ouais. Ou même
globalement,
si tu veux remonter avant.
Je vais essayer,
ouais,
parce que j'ai une mémoire, je vais essayer de me rappeler d'un peu tout. Non mais en gros, je suis parti de chez ma mère, j'avais 14 ans. On fait un petit rétrospectif comme ça sur les 15 dernières années.
Okay. Tu vivais où ?
À Perpignan, à Argelès-sur-Mer,
tu vois,
un peu dans le sud là-bas. Et je suis parti en sport-études. On coupera ça. Non, je suis parti en sport études.
Je pense pas qu'on l'entende, si.
Non, on verra.
Si, mais ouais c'est pas.
T'inquiète. Du coup, je suis parti en sport études pendant 2 ans, ensuite centre de formation entre Nîmes et Bordeaux, tu vois, sur toute la ligne vraiment du
dans
sud.
Quel sport du coup ?
Football. Foot ouais. Okay. Tout football à partir de là, à partir de mes 14 ans, tu vois, jusqu'à mes 20 ans.
Okay.
Donc Nîmes, Girondins de Bordeaux, Libourne, puis Colomiers. Et je suis arrivé à Toulouse en STAPS.
Okay.
Et j'ai toujours été quelqu'un, bon ben, de petit, tu l'as vu, et mais toujours.
Alors, ça me fait rire, parce que je pense que t'es dans un référentiel où t'es avec des mecs qui sont gigantesques.
Ouais, ouais.
Parce que là, on est rentrés, les seuls mecs qu'on a croisés, ils font tous 2 mètres.
Et ils ont 20 ans, tu vois, 21 ans, tu vois.
Enfin, t'es pas petit, t'as une taille normale.
Moi, j'ai l'habitude maintenant.
Mais oui, mais c'est juste que t'es avec des mecs qui font 2m10, mais t'as rien de petit, tu vois. Mais c'est drôle que tu te définisses comme quelqu'un de petit, c'est marrant.
Par rapport à eux, ouais, tout le temps.
Mais c'est ça, c'est qu'une question de référentiel.
Et du coup. Bordeaux, donc j'arrive ici en STAPS à 18 ans, tu vois, après un bac classique, cursus classique. Et je savais déjà que je voulais faire préparateur physique. Pourquoi ? Parce que j'étais quelqu'un de rapide, explosif, endurant et tout. Mais à chaque fois, je me faisais défoncer sur l'impact. Et donc, j'ai commencé la muscu, je pense comme toi, à 16, 17, 18 ans, tu vois.
J'ai commencé bien plus tard que
C'est vrai,
moi.
Plus tard ?
Ouais, je faisais un peu de... Tu vois, j'avais une culture un peu pompe, traction, truc.
Ouais, voilà, de base, fort, tu vois. Ouais.
Avec les sports de combat et la base que j'avais et tout machin. Mais vraiment, me mettre un programme structuré pour commencer à progresser et tu vois, envisager ma progression sur le long terme en muscu, j'ai commencé, j'avais... 23 ans, 24 ans.
Ah oui, ok, d'accord. Ouais, sinon, avant, t'étais en genre street workout ou méthode de la fée ou truc comme ça.
J'étais en mode étude, j'étais en mode prépa, grande école.
Journalisme et tout.
J'avais pas le temps et même culturellement, c'était non, tu vois.
Ok, tu vois. Je pensais que t'étais vraiment.
J'allais courir, très tôt, ouais. J'allais courir après mes cols de maths et mes révisions quand j'étais en prépa à minuit pour préparer le concours militaire de Saint-Cyr, tu vois. Mais c'était vraiment, on avait zéro moyen, on n'avait pas de salle pour s'entraîner, on n'avait que dalle dans le lycée où j'étais. Et c'était, vas-y, bricole. Et tu vois, il y avait des grimpés de cordes.
Ouais.
Moi, je suis arrivé à l'épreuve des grimpés de cordes, j'avais 18 ans et demi, 19 ans après mes 2 ans de prépa. Moi, j'avais réussi à grimper 2-3 cordes dans des gymnases, dans des casernes de pompiers à côté de chez moi. On a demandé la permission
froid,
et tout. Et il y avait des mecs qui étaient au lycée, dans des lycées comme moi, qui n'avaient jamais monté à la corde. Tu vois. Donc, tu arrives, tu n'as jamais fait un grimpé de cordes de 5 mètres bras seul.
Bon, c'est clair, en strict. Ouais, okay.
Mais non, moi, c'était vraiment par goût. Et ensuite, ensuite, quand j'ai eu le temps, tu vois, quand j'étais en master, que j'ai eu un peu moins de charge de travail et que j'ai commencé la vie active, là, j'ai pu me dire, ouais, OK, vas-y, je bosse plus que 35 heures par semaine.
Ouais.
Là, j'ai le temps de pouvoir me consacrer à ma passion qui est l'entraînement et que j'avais filé un peu comme ça pendant des années, quoi.
Ouais, mais tu avais cette culture, tu vois, de base, et un peu comme moi. Et du coup, je me suis un peu réfugié là-dedans. Et ça m'a suivi. Et en arrivant à Toulouse, du coup, j'avais déjà commencé la musculation, je commençais à avoir des coachings.
Okay.
Et j'ai rapidement su qu'en arrivant en STAPS, je voulais faire préparateur physique. Et dès ma L1, j'ai commencé à lire, à voyager un petit peu. D'abord en France, tu vois, parce qu'on a peu de moyens quand on est étudiant, tout ça.
Ouais.
À pratiquer et avoir mes premiers contrats avec le Pôle Handball Occitanie, avec le TFC, sur l'Académie, sur le centre de formation. Au Toulouse Olympique Rugby, qui est le club de rugby à 13, qui partage en fait Ernest Vallon avec le Stade Toulousain. Et dans des clubs comme ça, et puis 2 ans après, à 20 ans, quasiment 21 ans,
ouais,
y a l'équipe de France de handball qui vient pour préparer, je ne sais plus si c'était les championnats du monde ou quelque chose comme ça. Ils viennent en stage à Toulouse, tu vois, donc tous les Karabatic et bref, Omeyer, les joueurs que tu connais sûrement, et donc tout le staff. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore au Phoenix Handball. Et il y avait Alain Quintalet, c'était le préparateur physique de l'époque. Et je me suis dit, tiens, vas-y, je vais le voir, on fonce. On a parlé, enfin, on devait parler 15 minutes. Ça a duré 2 heures, 2 heures et demie. Tu vois, il s'est même fait attendre par le bus des joueurs. Et 2-3 semaines après, j'ai entendu que mon nom avait circulé. Il a parlé au manager de l'époque du Phoenix Handball, qui était ouais. Philippe Gardan. Philippe Gardan, c'est lui qui a donné le nom à l'équipe de France des Barjots. Il a entraîné le PSG, il a joué dans les grandes équipes, il a fait les JO, tout ça.
Okay.
Et Philippe Gardan, du coup, il m'a convoqué en mai 2015, 2016, je sais plus. Et ouais, un truc comme ça. Et il m'a dit, Max, on aimerait que tu prennes la préparation physique du groupe pro et du centre de formation.
Donc là, t'as 20 ans.
20 ans et demi, je vais faire mes 21. Donc, je suis fin d'année, tu vois.
Incroyable.
Et donc là, je suis L3 ou Master 1, je sais plus. Et donc, je faisais déjà pas mal de voyages et d'interventions ailleurs. Et j'ai dit, ouais, go, on fonce, tu vois. Mais à la base, pour une bouchée de pain, tu vois, ils m'ont proposé ça. Et on est parti de là, puis maintenant, bah, 8-9 ans après, on est là, 29 ans, quoi. Donc trop toujours cool. Dans le même club, ouais.
Félicitations. C'est gentil. En vrai, c'est vachement précoce comme début.
À fond, ouais.
Tu vois, tu as commencé à bosser comme staff pro de préparation physique dans un club pro.
Ouais.
Quand moi, j'avais même pas commencé à vraiment m'entraîner et à considérer que je pouvais me développer dans le sport et tout, quoi, vraiment.
Ouais, et peut-être parfois trop précoce, tu vois, dans certains trucs, on pourrait l'aborder sûrement après,
ouais,
dans le savoir-être, les relations et tout. Mais ouais, j'ai été je suis encore, je crois, le préparateur physique le plus jeune entre top 14, Ligue 1, Star League, donc sur les D1 françaises. Et donc, okay.
Pourquoi c'est cool. Tu penses souvent parce que c'est des anciens joueurs de haut niveau qui ensuite se reconvertissent comme prépa et qui du coup maturent un peu dans ce cycle-là, ou juste ouais, parce que ça bourlingue un peu à gauche à droite en montant dans des clubs régionaux et tout avant de pouvoir accéder à un poste.
Les deux trucs que tu as dit, okay. Et souvent ça, puis après tu as des mecs qui deviennent plus matures plus tard, on va dire, tu vois, ou après les études, ou qui ont un peu galéré.
Ouais.
Moi c'est un peu tombé comme ça, grâce à une rencontre, oser aller voir le groupe, parler, oser venir ici, tu vois,
ouais, donc, bon, voilà. Créer sa chance,
concours de circonstances, ouais, aussi. À fond.
Ok, donc ça fait 8 mois maintenant, 8 mois, 8 ans,
ouais,
8 ça ans. Fait 8 mois,
c'est ça, ouais, c'est tout nouveau,
ça fait 8 ans que tu es là,
ouais,
et que tu bouges pas de ce, c'est quoi, c'est le Palais des Sports en
Palais
vrai,
des Sports de Toulouse, ouais, okay. C'est ça.
Il y en a qu'un seul.
Il y en a qu'un seul, après si tu as le petit qui est à côté, mais pour le basket, okay, vu que c'est pas pro, c'est semi-pro.
Ok, sachant que je ne suis pas Toulousain, vous l'avez compris, et que je suis ici depuis peu de temps, et que je suis encore moins familier avec les structures du haut niveau ici à Toulouse, parce que c'est quand même un sacré privilège de pouvoir mettre les pieds ici. Et qu'en plus, sans être dans les gradins en tant que spectateur, avec le bruit des compétitions, des matchs et tout,
ouais,
c'est un super privilège. Merci de nous accueillir ici.
Ah, c'est normal,
super chouette. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, mais le truc est immense. On est sous un dôme, franchement, qui doit faire peut-être 28 mètres, 30 mètres de haut, je ne sais pas.
Alors, je ne connais même pas les... Tu vois, ça fait 8 ans que je suis là, mais je ne connais pas du tout les mensurations, les trucs.
C'est vraiment solide. Hein. C'est ouais, évidemment plus petit qu'un stade de foot, parce que le terrain fait...
40 par 20, il fait.
Ouais. Ah, j'aurais dit 50. 40 de long.
40 par 20, ouais.
40 par 20,
ouais.
Ok. C'est des tailles standards, c'est toujours pareil.
Taille standard, ouais, obligatoire. Okay. Si ton terrain fait 39, il n'est pas homologué, ouais.
Ah, intéressant. Ouais. Parce que c'est en foot, je crois que la longueur peut varier.
Ouais, ça peut varier, hein. Exact. Ouais, okay, grave.
Basket, c'est toujours fixe. Mm-hmm. Handball, c'est toujours fixe.
Tous les sports d'intérieur, ouais, c'est fixe.
C'est, okay,
ouais,
c'est une question de contrainte. Ok, grave, logique. Intéressant. Bon, alors pourquoi le handball du coup? Juste l'opportunité, le fait d'être venu ici et d'avoir commencé à y toucher et d'avoir la chance de pouvoir mettre les pieds dans un truc d'aussi haut niveau aussi vite, tu t'es dit, allez, où?
Sport co surtout, tu vois. Okay. Sport co parce que j'avais froid aussi dehors. Non, c'est pas vrai, mais c'est parce que l'hiver, non, mais... je me suis dit, moi, foot, je viens de là, tu vois. Viens de là. Foot, je viens de là. Rugby aussi, je connais bien. Et puis, je me suis dit, bon, ben, c'est soit je persévère dans le rugby, tu vois, je vais voir au stade ou dans d'autres clubs et tout. Ouais. Et l'opportunité a fait que ça a été handball. Puis maintenant, vraiment, c'est une discipline que j'affectionne particulièrement parce qu'elle a plein de similitudes avec le rugby, elle a plein de similitudes avec le foot US, avec. Les sports de combat, parce qu'il y a énormément de contacts. Les gens, quand ils viennent à chaque fois, ils sont... pour ceux qui viennent la première fois, ils sont choqués. Le but, c'est de mettre le mec par terre et de le neutraliser, de faire le plus de neutralisation. C'est, okay. C'est vraiment un sport de combat.
Ah, donc, il y a une grosse dimension physique. Opposition.
Ouais, ouais. Ouais,
okay, parce qu'en vrai, tu te demandes, okay, mais pourquoi les mecs font tous 2m10 et ouais. 100 kg. Tu as fait la moyenne de taille et de
ouais,
poids de tes
tout.
Joueurs
ben, nous, en plus, on est un petit club, petit ouais. budget. Donc, quand on veut des gros gabarits qui font plus de 2m, 2m5, 2m10, ça ouais. coûte forcément plus cher. Donc on a des petits gabarits, mais nous
ça
là,
ça valorise quand même les mecs sur le ouais. marché des joueurs pros d'avoir une grosse caisse. Et... Ok, intéressant.
Et en fait, le gabarit compte aussi. Nous, notre moyenne, c'est 1,92, 1,93. Et moyenne de poids, c'est 98, 99 kilos. Tu vois, mais t'as des clubs, genre le PSG ou Montpellier ou Nantes, c'est 2m2, 2m5, 2m6 et sûrement 105, 106, 108 kilos de moyenne. Tu vois. Donc c'est des gros trucs. Et 40 par 20, tu vois. Donc quand t'as 7 contre 7 ou 6 contre 6...
Incroyable. J'avais ouais. fait la moyenne de taille et de poids des mecs avec qui j'étais allé tourner quand j'avais fait la vidéo avec le Stade Français ouais, en août
haut.
Dernier. Mmh. Et c'était 1,98.
Ouais, 115, je pense, 110. Ouais.
Non, dans le pack que j'avais eu, c'était 100,4, un truc comme ça.
Ah, t'étais avec les arrières, ouais. Peut-être.
Ouais.
Ouais, c'est pour ça.
Mais déjà,
c'est énorme.
En fait, la blague, c'est que tu dis, mais wow, les mecs, ils font une tête de plus et 30 kilos de plus que moi. Mais ils courent aussi vite.
Ouais, c'est dingue.
Même plus, je pense. Mmh. Tu vois, ouais. Je pensais que sur le cardio, j'arriverais à en bouffer certains. Absolument pas, ouais. tu vois. Et tu dis, ouf, en fait, t'es loin, quoi. C'est-à-dire que t'as aucun avantage concurrentiel sur aucune des parties des capacités athlétiques.
C'est
et
clair.
Les mecs, ils sont ou aussi bons ou bien meilleurs que toi sur tout le reste, en fait. Et effectivement, tu vois, j'avais fait zéro confrontation. C'était
ouais.
que du jeu, des trucs, du cardio, de la prépa et tout machin. Et déjà, j'étais à la cabane.
Ouais.
Donc, si t'es sur un terrain aussi petit avec des mecs aussi monstrueux,
ouais.
en vrai, effectivement, comme tu l'as dit, t'as beau être le plus technique. Je pense que dans des sports aussi... tourner sur l'opposition. Tu vois, le foot, on peut avoir des Messi. Tu me corriges si je me trompe, mais Messi, il était connu pour avoir un petit gabarit et pourtant exceller parce que dans le foot, il n'y a probablement pas le même enjeu d'opposition et de gabarit,
ouais.
même si les mecs sont de plus en plus costauds et tout. Mais dans le handball, contrairement à ce que tu disais, beaucoup de gens peuvent penser avant de venir voir un match pour de vrai, tu as une grosse dimension opposition, grippe, prise de balle. Possession et tout, c'est vrai?
Ouais, carrément, bien sûr. Et en plus, t'as, depuis une dizaine d'années, si tu veux, tu as l'engagement rapide maintenant qui existe dans le hand.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, tu marquais un but, tu avais le temps de le célébrer comme au foot ou au rugby, enfin, ou célébrer ton essai,
ouais.
après t'engager. Là, aujourd'hui, c'est t'as marqué, le gardien il relance vite et tu peux aller marquer direct. Ou marquer sans gardien,
ah,
s'il y a un gardien qui est sorti.
Il n'y a pas un engagement au centre du terrain comme
on
Si,
foot. L'engagement il se fait au centre, mais c'est ton pivot
D'accord.
qui va prendre le centre ou ton ailier, le gardien qui a vite relancé, il faut que les joueurs soient dans le rond central.
Okay.
Et ça peut aller super vite, il n'y a pas de temps d'arrêt. Des fois, tu as des montées de balles ou des contre-attaques, on appelle ça. Tu vas 4-5 fois dans le camp là, 4-5 fois dans le camp là, en 2 minutes, et pff, tu fais une PMA, tu vois, mais ça pendant une heure.
Oh, waouh.
Ouais, quand il y a des gros matchs, c'est un rythme énorme.
Un match de handball, c'est 2 fois 30 minutes ?
2 fois 30, ouais, exact.
Avec 15, 20 au milieu ?
10 minutes de
10 minutes
de pause, ouais.
10 ah ouais,
12.
Donc
12 minutes exactement, ouais.
Ok, c'est marrant que ouais. le format soit 12.
En fait, 10, on sort des vestiaires et après, il nous reste 2 minutes pour réchauffer les mecs et boum, on enchaîne.
Ok, intéressant. Donc, en termes de culture et d'apprentissage de quels sont les facteurs clés de succès pour la performance de tes joueurs, même si c'est similaire au sport co que tu connaissais, ça n'a rien à voir avec le foot en vrai.
Non, rien, franchement.
Rien du
non.
tout.
C'est vraiment plus proche du rugby et du foot US limite, tu vois, ou
okay.
du rugby à 13.
Ok, d'où le gabarit des mecs.
Ouais.
D'où aussi, je pense, l'orientation de la prépa physique.
Exact.
T'as ouais. beaucoup de. Enfin, t'as probablement beaucoup plus de membres supérieurs que dans le foot.
Ouais,
la coiffe des rotateurs,
c'est vraiment,
les épaules, l'appréhension.
C'est complet, tu vois. Dans le foot, c'est surtout membre inf, on va dire, et
ouais.
rugby, handball, tous les sports qu'on a dit, c'est vraiment full sur tout le corps, tu vois.
Okay.
Autant chaîne post, chaîne antérieure, membre sup, membre inf, ce que tu veux.
Okay.
Ouais,
okay,
c'est bien réparti.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la prépa et dans le travail que tu amènes avec tes joueurs?
Le contact, ouais.
Mais...
C'est pas forcément, tu vois. Le côté savoir-faire, skills, compétences techniques en prépa physique, c'est vraiment l'immersion, tu vois, dans le club pro, la relation humaine,
okay.
le partage, le leadership avec les joueurs, l'écoute, les relations sociales, ouais, c'est ça qui... Même avec le staff, hein. Mais ouais,
okay.
c'est... Parce que t'as des cultures différentes, tu vois, on a 7 nationalités différentes, Donc,
Parce qu'il y a des joueurs internationaux, du coup?
Ouais, il y a des joueurs internationaux, okay. Pas en France, parce qu'on n'a pas encore les moyens financiers, mais
okay.
Ils sont tous, tu vois, dans des clubs comme Chili, Serbie, Allemagne, Norvège, Suède, Portugal, etc. Et même Espagne, on en a eu plein, Pologne, enfin bref.
Okay.
Et de ces joueurs-là, bah, tu apprends énormément, tu vois. C'est comme si tu as un melting pot, tu vois, qui arrive dans un club, il y a plein de cultures différentes, et tu crées une osmose, tu crées un groupe et tu échanges avec eux.
Ça doit être super enrichissant.
Voilà. Ouais, à fond. Humainement, c'est fou.
En France, on a une grosse culture du handball comparativement à ces pays-là que tu viens de citer.
C'est surtout le hand, pays scandinave, tu vois, Danemark, Suède, Norvège. Ça arrive vraiment Espagne, Portugal et à l'Est. En France, on l'a aussi, je crois que c'est, si je dis pas de conneries, il y a en sport individuel, tennis, équitation en sport numéro 1, il me semble.
Okay.
En sport co, je crois que le handball est deuxième ou troisième. Tu vois,
tennis, équitation.
Ouais, équitation, il y a énormément de monde. Hein.
En France?
Ouais, en France. Tennis, c'est numéro 1, sûr. Je crois que c'est équitation deuxième en sport.
J'en ai une derrière la caméra qui fait des grands sourires là.
Et boxe, MMA, c'est un peu plus loin parce que bah, forcément du haut danger et la trauma. Mais sport co, t'as foot, c'est sûr, en numéro 1.
Ouais.
Rugby, c'est loin derrière dû au trauma et au contact et tout et dangerosité. Mais handball, je crois que c'est deux ou troisième. Ouais. Il me semble que basket, c'est peut-être deuxième ou handball troisième ou à l'inverse. Mais...
Intéressant.
Ouais.
Ok. En vrai, il y a moins de risques de blessures que dans le rugby, par exemple. Et un peu plus que dans le foot.
Il y a autant de risques, sauf que les blessures se font moins, tu sais, au niveau de la tête, moins de commotion cérébrale, moins
c'est
de contact, choc direct, affrontement. Le genou, ligament croisé, genou, les hanches, tu vois, on parle de ça. Ah, il y en a beaucoup. Tous les clubs de Star League cette année, ils en ont moins un. Et dans le rugby, il y en a plein aussi. Tous les clubs de Pro D2, ils en ont un. Les clubs de Top 14, il y en a pas mal aussi. C'est les sports, tous les sports de contact pivot, ben MMA, pareil, tu vois.
Quel enfant,
ouais. Je suis rentré dans ton
direct, dans ma tête direct. C'est sur quel type de blessure, de ce que j'ai pu confronter avec les prépas avec qui je suis, par exemple au CEP à Dijon là, tu sais, dans le DU que je suis en train de suivre, il y a beaucoup de mecs qui s'occupent d'équipes de handball. Et souvent, de ce que j'ai l'impression de percevoir, c'est sans doute biaisé, mais souvent c'est sur des changements d'appui sans contact. C'est des mecs qui font des gauche-droite ou qui se retournent pour choper un ballon et tout. Et paf, ça pète sur des mouvements qui ont l'impression d'être des mouvements bénins où tu fais des trucs genre tu dis mais il a déjà fait ça un million de fois. Sauf que fatigue potentielle, enjeu potentiel, match, compétition, il y a un truc important, je sais pas pourquoi. Et il y a un moment, ça pète quoi.
Et les chevilles se font souvent, tu sais, ils sautent, ils atterrissent mal ou ils se font pousser.
Ouais.
Les genoux se font souvent sur contact avec un duel ou souvent sans contact, comme tu as dit.
Okay.
Ils accélèrent, ils décélèrent tout seul ou ils changent de direction.
Okay.
Et après, les épaules, par contre, c'est 100% contact. Tu sais, c'est rare qu'il y ait un mec qui se fait, à force de shooter, oui, il peut se faire une bursite ou se faire opérer, mais c'est souvent avec des contacts et les chutes.
Si c'est un gros trauma, c'est sur du...
Mais le genou, c'est numéro 1. Dans le hand, après, tu as l'épaule, après, cheville. Mais le genou, c'est numéro 1. Ouais.
Ok. En plus de la prépa physique, toi, tu as une grosse partie, en gros, je ne sais pas en termes de pourcentage de ton taf, mais en tout cas, tu as une bonne sensibilité sur la réathlétisation, parce que tu t'occupes d'athlètes qui reviennent aussi post-blessure.
Ouais,
donc, tu fais pas mal de ligaments croisés.
Ouais.
Ok. Tu as bossé dans un club de... Dans un club, pas du tout, dans un cabinet de kiné avant.
Non, même pas.
Pas du tout. Non, je pensais que tu avais bossé avec SPS.
Oui, mais j'étais pas kiné, j'étais prépa là-bas.
Tu étais prépa là-bas. Ouais. Okay, d'accord.
Et en plus, toi, quand tu étais, on fait une aparté sur SPS vite fait, mais tu vois, ils ont en haut maintenant.
Ouais.
Avant, il n'y avait pas ça, il n'y avait que en bas.
Il n'y avait que la partie basse. Ouais, ok. Exact. Donc, il n'y avait pas de kiné à l'origine.
Il y avait Ben, toujours, Enard, tu vois.
Logique.
Et il y avait un autre kiné, mais ils traitaient directement. Si, ils allaient en haut, mais la petite salle que tu as au fond, il n'y avait que celle-là.
Okay,
et après, ils ont tout plafonné.
Et maintenant, ils ont effectivement développé. Il y a un vrai pôle kiné énorme et un pôle prépa physique. Pôle prépa. Et toi, tu as commencé prépa là-bas?
Que là-bas, ouais. Enfin, j'ai pas commencé, mais j'ai bossé quand j'étais ici déjà aussi. Ouais.
D'accord.
Ouais.
Donc, il y a quoi, 5-6 ans?
Oh, c'est une bonne question que tu me dis. Donc, avant Covid, je pense, 2019, tu vois, un truc comme ça. Ouais.
D'accord.
Ouais.
Ok, ok.
Pour ça, quand tu m'as dit que tu allais là-bas avec Ben et tout, j'ai dit, c'est bien.
Ouais, j'ai été entre de bonnes mains. Ouais. Ouais. Ils sont ultra compétents. Paul, qui s'est occupé de moi, qui m'a récupéré, il est ultra bien et je suis super content du travail qu'ils ont fait avec moi, surtout de, tu vois, du côté humain, de l'accompagnement. Parce que je pense que tu le sais, mais en accompagnant des sportifs qui sont blessés avec ce genre de trauma, tu as à la fois un gros travail technique et de savoir-faire, mais en même temps d'adaptation de qu'est-ce que je peux amener, comment je corrige le tir. Là, il y a des douleurs, ok, comment est-ce qu'on modifie et tout machin. Ouais. Tu vois des grosses similitudes entre la prépa que tu fais avec des athlètes sains, entre guillemets, pas blessés, et la réathlé? Ou pour toi, c'est des approches différentes ou c'est un continuum?
C'est différent. Ouais, ça n'a rien à voir. Et en plus, la réathlétisation des croisés, j'ai pu en faire dans le foot, rugby, souvent à distance et aussi en présentiel avec des athlètes qui m'appellent.
Okay.
Rugby, foot, handball, que des athlètes professionnels.
Okay.
Et il n'y en a jamais une qui a été pareille. Mais vraiment diamétralement opposée.
Intéressant. Pourquoi ça?
Des fois, tu as un gars qui va avoir un peu le ménisque, ou que le croisé, ou qui
Ouais.
va un peu toucher sur des douleurs tendo-rotuliennes. Enfin bref, il n'y a jamais eu une blessure vraiment similaire ou une réathlée similaire. Les durées de retour sont différentes. Des fois, ça va être au bout de 6 mois, le mec il est pris, il est OK, 7 mois, des fois 8, des fois 9. Ça dépend vraiment de tout. Et du sport, de la pratique, du mec, de l'environnement.
Ouais.
Tu vois, là, on est sur notre capitaine. C'est le seul blessé qu'on a, mais c'est notre capitaine
Ok.
qui s'est fait les croisés au tout début de saison, deuxième match, alors qu'il était tous les feux au vert.
En match?
Match, contact, il se fait pousser et il retombe croisé.
Et instantanément, genre.
Instantané, ouais. Il savait déjà, enfin, tout le monde savait. Ouais.
Ah putain.
Ça se voit sur la vidéo, c'était retransmis à la télé et tout.
Ok.
Et du coup, ben là, il a 5 mois et demi. Dans un mois, il peut être prêt, tu vois, un mois et demi. Mais on va
Ouf.
attendre quand même.
Il peut être prêt à retourner sur le terrain en mode
Ouais.
compétition? Oh
Il est
wow,
pas mal
ok.
déjà, tu
Donc
vois.
il se l'est fait quoi
Il se l'est fait
en
fin
fin octobre? Fin
septembre.
septembre?
Fin septembre, il s'est fait opérer le 11 octobre, voilà, tu
Ah bah quasiment comme
vois.
moi
Ouais,
quoi.
direct, ouais,
Ok.
exact.
Et là le mec il est quasiment OP pour
Là, il a
aller
cinq mois
rejouer.
et demi, non, dans 4-5 bonnes semaines, il va reprendre avec le groupe. Et après, tu vois, il
Ah ouais,
pourrait faire
donc
une Entamac, mais prends pas de risque. Parce qu'on va arriver fin de saison, on sera en juin, tu vois. On sera à fin mai, donc ça sert à rien. Il sera prêt
logique.
pour la reprise en juillet, quoi.
Ouais, donc c'est ça a pas traîné quand même, hein.
On essaie.
Mais
Et
parce que t'as des mecs
pourtant.
avec des grosses capacités athlétiques qui
Ouais.
récupèrent bien
Et
et
tu m'as dit,
qui
ils s'entraînent
sont
entre 10 et 12 fois par semaine, ouais, les mecs.
même maintenant blessés.
Ouais, mais en fait, plus t'es blessé. Enfin, les blessés s'entraînent plus que les joueurs valides.
Parce
Ça,
qu'ils
les gens, ils
ont
savent
moins
pas ça.
d'intensité sur les séances, donc ils ont plus de fréquence aussi.
Pas
Même pas
forcément,
forcément, c'est
mais
juste qu'ils
non, ouais,
bossent tous
c'est
les points
dur.
faibles pendant les
Ah,
blessures.
on comble tout, on est en one-one avec eux, c'est super dur ouais, pour eux. Quand t'es blessé, franchement, je souhaite à personne, c'est très très dur. Et pour le prépa physique ou les prépas, et pour les joueurs, quoi. Tu sais maintenant
Ouais,
de.
tant que ça.
Ouais.
Ok.
Tu vois, par exemple, Max Gilbert, notre capitaine, là, j'étais avec lui encore à midi. Des fois, je mets des vidéos de lui sur les stories, mais il fait deux lundis, deux mercredis, deux vendredis.
Ouais.
Il fait une mardi, une jeudi. Mais la
Ouais.
séance du mardi-jeudi dure 2h30 sur le terrain. Après, il a les soins chaque jour. Et le samedi, il a une grosse séance récup. Tu vois, donc t'es plus de 10 entraînements passés.
Wow. Les séances récup, tu les comptes comme des entraînements?
On le compte comme un entraînement quand même, ouais.
Ok, parce
Parce
que
qu'il
ça
a.
nécessite que le joueur vienne, qu'il soit là, c'est son
Ouais, ou alors il a
taf.
calistéo, étirement, massage, bain froid, soins avec les kinés, respiration, truc, quoi. Donc, il y a quand même du taf.
Ce sont les aléas du direct, on a été coupé parce qu'ils ont
Grave.
balancé. Je sais pas, il y en a un qui a
Ah
dû faire un petit prout. Ils se sont dit on va aérer, ils ont balancé des turbines monumentales pour vider l'air de la salle. C'est génial. Et ça te l'avait jamais fait.
Je te jure que non. Je savais même
8
pas
ans
que c'était.
ici, ils savaient même pas qu'on pouvait balancer
Ah non.
les bouches
Ah, il y a plein
d'aération.
de trucs que je sais pas ici, hein, mais tu découvres.
Chatnoir.com. Magnifique. Ok, donc 12 séances d'entraînement pour un mec qui vient de se faire les croix. En vrai, c'est un
En moyenne.
sacré gros volume.
C'est abusé,
Mais
ouais, bien sûr.
pourquoi? Parce qu'il y a tellement de trucs à bosser. Et puis, si, en vrai, sinon, il faudrait 9 mois, quoi. C'est-à-dire, s'il garde le même volume
Oui.
d'entraînement, il revient au bout d'un an, quoi.
Mais des fois, en plus, il faut 9 mois. Des fois, tu as ce genre d'entraînement, enfin de volume d'entraînement, tu
Ouais.
vois. Sur les 9 mois, ils vont couper 3 fois une semaine, tu vois, dans les 9 mois.
Ok.
Maxi, après, ils s'entraînent tout le temps.
Ok.
Mais des fois, il faut quand même 9 mois pour certains pour revenir.
Putain.
Et ouais, c'est des énormes volumes d'entraînement. Ouais. Les
Ça,
gens, ils se rendent pas
c'est
compte,
un
mais.
truc que j'ai appris en me blessant, c'est ne surtout pas se comparer à
Non,
un
grave.
tel. Tu vois,
Ouais.
genre au tout début, je regardais une vidéo d'un footeur qui s'était fait les croisés, qui revenait sur le terrain au bout de genre 251 jours. J'étais là, wow, c'est tellement long.
Ouais, bon.
Et là, je suis à 160, 170, un
Ouais.
truc comme ça. Et je me dis, ah, oh, finalement, il était pas
Ouais,
mal pour
c'est clair.
251 jours.
Ouais, ça fait ouais, 7 mois, 6 mois, ouais, c'est ça. Ouais. Non, franchement, il faut pas comparer. Ça te met mal à l'aise. Et surtout quand tu vas au CERS. Tu sais, les mecs qui vont au CERS des fois. Nous, des fois, on les envoie 2-3 semaines à Cap-Breton. Tu sais, ils
Ouais.
changent un peu d'environnement,
Ok.
ils voient autre chose. Mais là-bas, ils font 2000 croisés par an, le CERS à peu près,
Ok.
en moyenne. Et tu as des contextes complètement différents. Tu as des joueurs pros, des mecs de top 14 qui sont blessés. Et tu en as vraiment, ils galèrent, d'autres, ça va plus vite. Enfin, faut
Ça
pas se
tient,
comparer.
d'après ton expérience, ça tient à quoi?
De faire les croisés?
Non, de la vitesse de récupération.
Tout un environnement, je pense. L'environnement psychologique, c'est de la tête du sportif.
Ouais.
Son environnement familial, émotionnel,
Ouais.
psychique. Il y a plein de paramètres, plein de marqueurs.
Ok.
Et après, la qualité d'accompagnement du staff, de plein de choses. Hein.
Ok. Et du coup, la traumatologie de pourquoi est-ce que les mecs se font les croisés la plupart du temps? T'arrives à avoir un.
Ouais,
C'est
d'où ça peut
super.
venir?
Ouais.
Souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que plus un joueur il a des contraintes externes, c'est-à-dire, ou une joueuse, hein, il est en train d'acheter une maison, il est en train de se séparer, il est en train d'avoir un enfant, enfin, sa femme est en train d'avoir un
Ok.
enfant, en général, ça pète. Souvent, très très souvent.
Tu sais ce que la psy m'avait dit au moment où je me suis blessé? Elle m'a dit oh, c'est marrant que vous soyez blessé au genou. Est-ce que ce serait pas un peu la liaison entre le jeu et le nous? Et j'ai fait waouh.
Non, mais tu sais, il y a plein de trucs comme ça dans, ouais, dans le langage corporel. Ouais.
Ouais.
Moi, j'y crois. Après, si j'en parle à mon staff médical, ils me disent ça va se faire foutre avec tes trucs, tu vois. Mais les trucs un peu spirituels, ésotériques, là, ouais, c'est... moi, j'y crois. Et d'ailleurs, Max Gilbert, lui, c'est un mec qui est très cérébral. Je ne dis pas qu'il croit à ce genre de choses, mais il conscientise pas mal. Et c'est vrai que le genou, il est lié vraiment à l'émotionnel.
Putain, tu vois, en te posant la question, j'étais certain que tu allais me sortir un truc. Ouais, on se rend compte que c'est des mecs qui ont des faiblesses potentielles sur la décélération, sur les ischios. C'est des mecs qui ont des problèmes de déficit de force sur tel ou tel pattern ou machin.
Regarde Ntamack. Ntamack, il fait les croisés avec l'équipe de France. Et un mois avant, il gagne le top 14. C'est lui qui marque l'essai. Le mec, il est comme ça. Antoine Dupont, quand ils aient fait la même chose. Non, franchement, c'est pas quand t'es déficitaire ou quoi que ce soit. C'est souvent quand t'es au top de ta forme que tu
le fais. Et dans leur contexte, les deux, t'as l'impression qu'ils avaient aussi, peut-être que tu le sais pas, je sais pas, ouais, il y avait un truc avec un peu de trucs externes où il y avait des tensions, il y avait des enjeux dans leur famille. Ou...
pas forcément des tensions, tu sais, mais, ou même des fois trop de bonnes nouvelles d'un coup, ou plein de trucs extérieurs qui viennent te perturber. Et nous, c'est ce qu'on a remarqué souvent, c'est ça. Hein. C'est souvent, tu vois, on a un joueur qui avait fait un croisé il y a 7-8 ans, 2017. Ouais. C'était sa première sélection en équipe d'Espagne pour faire après, je sais plus, non, c'était pas les JO, c'était championnat d'Europe ou championnat du monde. Il revient ici, malade avec la grippe, boum, il se fait le croisé. On a ben, notre capitaine, tous les marqueurs ouverts, une intersaison de malade, il est nommé capitaine, il a des problèmes familiaux, il a un décès dans sa famille, tout ça, boum, il se fait le croisé. On a un joueur norvégien. Il arrivait du coup international norvégien, vice-champion d'Europe, des trucs dans la famille, tout ça, boum, croisé, tu vois. Mais c'est les trois qu'on a eu en 8 ans, mais c'est souvent lié aux environnements externes.
Mmh. Ouais.
Et des mecs souvent balèzes, tu vois. Tu te dis pas, il va se faire les croisés, lui.
Mmh. Ok.
Ouais.
Bon.
Ça peut te rassurer un peu.
Je vais méditer un petit peu là-dessus.
Déjà, ça veut dire que toi, t'étais pas forcément... spécialement faible ou quoi, c'est pas souvent des...
Je me sentais vraiment pas faible à ce moment-là, je me sentais vraiment bien, tu vois, genre arrêté, en plus, tu te dis toujours, ouais, j'ai pété, pas en pleine gloire, mais au moment où j'étais vraiment dans un bon moment de développement, où j'avais l'impression d'être dans un bon groove, effectivement, sauf que, bah ouais, au moment, c'est le moment où on venait de déménager, on venait de quitter l'Espagne, on venait d'arriver à Toulouse, moi j'avais mes marques à reprendre, je connaissais rien, il fallait que je relance toute ma production de contenu, il y avait beaucoup d'enjeux sur ce plan-là. C'est super intéressant, tu vois, c'est bien de pouvoir bénéficier de ta perspective là-dessus parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Tu dis toujours que ça joue, tu vois, mais moi j'aurais pensé plutôt à des facteurs objectifs, tu vois, genre la qualité du sommeil ou peut-être
on sait que
le stress ça peut niquer la récupération, ça peut doubler le temps de guérison de petits trucs comme de simples plaies, tu vois. Donc tu te dis ok, mais j'avais pas l'impression d'être particulièrement stressé, je dormais bien.
Ouais.
Donc tu te dis ok, objectivement il n'y a pas vraiment de raison, tu vois. Je ne m'étais pas mis une charge d'entraînement de COSA en mode « Ah bah là, si ça ne pète pas, c'est un miracle, ben voilà, ça a pété. » Non plus, tu vois, donc…
Tu as tous les marqueurs de base d'entraînement invisible, sommeil, nutrition, diététique, hydratation, tout ça qui rentre en compte.
Ouais.
Après, tu as tous les marqueurs émotionnels et d'externe qui peuvent accélérer la mauvaise nouvelle, entre guillemets.
Super tu intéressant. Vois. Ok, bon. De toute façon, j'ai remis tous les marqueurs au vert là depuis. donc, mais en vrai, tu as raison dans le sens où le contexte émotionnel de l'athlète, je vois moi au tout début, genre les 10-15 premiers jours, j'étais au fond du saut. J'étais là, putain, mais en plus, tu vois, j'ai pas fait que les croisés, j'ai fait tibia, péroné, ménisque avec. Tu dis, c'est la totale, tu vois. Et j'avais jamais eu une blessure aussi importante. C'était douloureux, c'était incapacitant. Le fait de ne pas pouvoir conduire, d'avoir besoin de ma nana pour m'emmener à la muscu, chez le kiné, n'importe où, tu as l'impression d'être d'un coup super dépendant. Tu vois, ça m'a mis un gros coup. Et dès que j'ai pu reposer un peu le pied, recommencer à... Tu vois, dès que j'ai pu conduire déjà, mentalement, ça, j'ai repassé un cap.
Tu m'étonnes.
Tu te dis, ok, tu n'es plus dans l'assistana, là, tu es en train de te reconstruire, d'être acteur de ta reconstruction.
Tu pars à zéro, quoi, tu vois. Tu vois, comme un enfant.
Et ce que j'ai entendu, en fait, c'est que justement, des retours que j'ai eus d'Antoine Dupont, par exemple, c'est que c'est des mecs qui, instantanément, sont passés dans le mindset de, ok, on est blessé, il faut le voir comme une opportunité, qu'est-ce qu'on peut optimiser et qu'est-ce que j'ai négligé par manque de temps ou tu vois, de capacité avant ça et que maintenant, j'ai l'opportunité de pouvoir développer parce que j'ai plus que ça à
c'est
faire.
Clair.
En fait.
Exactement.
Et c'était super inspirant. Ils m'ont raconté ça tu vois, chez le kiné notamment, que genre, le lendemain, le mec il était en mode, ok, comment je peux optimiser ma vision du jeu, ma tactique, ma stratégie. Et t'es là genre, mec, tu viens de te... C'est pas grave, tu vois, genre... Et
t'en as pour 8 mois et tu
t'aurais pu penser que c'est du déni, tu vois. Mais non, en fait, il a déjà fait l'acceptation de la blessure, le deuil du truc, de sa saison et tout. Et ok, comment est-ce que je peux vraiment magnifier ça et en faire un truc positif sur le papier. Et c'est ultra, ultra inspirant. Et dès que j'ai compris ça, en fait, J'ai shifté.
Ouais, t'as switché, ouais.
Et effectivement, ça a tout changé, en fait. Genre, vraiment. Donc, super intéressant. Toi, t'as déjà eu des grosses blessures?
Non.
Perso, jamais?
Je touche du bois, il n'y a pas de bois vite, mais... Non, mais ouais, tu vois, pour l'instant, non, je pense pas que j'en aurais, vu que j'ai arrêté le sport, tu vois, à haut niveau, foot, rugby et tout. Mais après, je m'entraîne... C'est pas en muscu que tu vas te faire les croisés ou en haltéro ou quoi, tu vois, mais...
Ouais, ou alors c'est qu'il y a un...
Faut en vouloir, souci, mais... Ouais. Mais non, je... Ou aussi peut-être en faisant du parcours, parce que j'en fais un petit peu, du street workout ou quoi.
Ok.
Tu sais jamais, hein.
Ouais.
Mais bon.
Ouais. Je me suis fait des grosses blessures en parcours, moi. Ouais. Raconte-nous un peu ta perspective d'entraînement, toi. Comment tu... Parce que j'imagine que c'est pas simple d'arriver à trouver du temps ou à se faire du temps dans ces semaines quand on a des plannings aussi chargés que le tien. Mmh. Sur quoi tu mets la prio? Comment tu t'entraînes? Est-ce que ta vision de l'entraînement, elle a changé depuis que tu es au contact de sportifs pro, de sport co, etc.
Ouais.
Ça m'intéresse vachement d'avoir un regard derrière la caméra, tu vois, d'un prépa physique de haut niveau.
Déjà, j'essaie de... incarner ce que je prêche, tu vois, et de lead by example, tu vois, le truc que je pense que toi aussi tu prônes dans tes valeurs.
Ah bah, enfin moi je ne suis pas comme toi au milieu d'une équipe de mecs qui font 2m15 et 100 kilos, mais enfin il y a un moment, si tu veux être crédible, il faut être capable d'au moins démontrer ce que tu conseilles, parce que...
Et donc je m'entraîne en fonction de ça, si tu veux, je m'entraîne, ben, j'essaie d'être, on va utiliser un peu le mot à la mode, c'est le mot hybride, mais ça depuis que j'ai 20-21 ans, je veux être complet partout, donc en gym, en workout, en force, en haltéro, en plio, tout ça. Et donc, je m'entraîne toujours dans ces disciplines-là, vu que je ne fais plus de sport en club.
Okay.
Et donc, je passe d'abord par moi, du style, il faut que je sois au top, entre guillemets, performant. Et après, pour pouvoir bien être déjà crédible et pouvoir ressentir aussi ce que les mecs ressentent aussi en préparation physique. Parce que les GPS, les datas, les chiffres, tout ça, c'est bien. Mais d'être aussi au cœur de du stimuli, de la contraction, et savoir quand le mec il est en surcharge, en sous-entraînement, etc. C'est aussi hyper important, et ça fait la diff.
Okay.
Donc ça, c'est le côté perso, tu vois, je veux vraiment prêcher incarner ce que je prêche, quoi.
Ouais.
Et l'autre des choses, c'est que chaque 3-6 mois, si tu veux, je fais une revue vraiment de toutes mes méthodologies, mes concepts, mes principes que j'ai appris dans l'entraînement et avec les lectures scientifiques, tu vois. Mmh. Mais j'y prête de moins en moins attention parce qu'elles sont souvent toutes biaisées.
Okay.
Je crois que tu en parlais déjà un peu avec Bayesian ou des trucs comme ça, mais je prends vraiment du recul sur ça, sur le scientifique, mais vraiment échanger avec tout le temps des coachs via les réseaux sociaux, via des mails, via LinkedIn, et ne pas s'enfermer, ne pas rester statique, quoi. Parce que ça évolue super vite dans le monde de l'entraînement sportif, et donc voilà.
De ouf. Ok. Tu as une planif type, toi, pour ta semaine qui ressemble à... Tu sais comment tu t'entraînes
exactement? Moi,
perso,
ouais, j'essaie de faire au moins 45 minutes tous les jours, tu vois.
Ok.
En général, lundi, mercredi, vendredi, je fais beaucoup de travail de force athlée, donc de force. Mardi, jeudi, souvent haltéro. Le vendredi, c'est souvent de la plio ou travail un peu d'extra. Tu sais, travail de grip, travail de pied, gainage, tout ça. Et le dimanche, c'est soit cardio ou étirement ou récup, ça dépend.
Ok. Donc en vrai, tu ferais du cardio qu'une fois par semaine, voire même pas.
Ouais, parce que je mets vraiment beaucoup d'intensité dans mes séances. Et vu que j'ai toujours fait, entre guillemets, du cardio depuis que je suis jeune.
Ok. Oui.
C'est pas ce qui me manquait, tu vois.
Ouais,
mais
parce que
bon.
Tu as développé une grosse base et tu dois avoir une VO2 max restante
des
années
et
tout. Qui,
mais je vois que quand tu arrêtes le cardio un peu trop longtemps, tu vois qu'après t'es dans le dur, quoi,
quand
direct.
Même, hein.
Donc je maintiens quand même, au moins une fois par semaine, voire deux.
Ok, intéressant. Ouais. Quand tu fais du cardio une fois par semaine, c'est quoi? C'est du foncier?
Soit dehors. Non, j'aime pas foncier.
Ok.
Ouais, tu sais, du long, j'aime pas. Je vais soit sur piste d'athlée, faire de la répétition de sprint long ou de sprint court, de la plio, ou soit des types un peu cross-training, crossfit. Même si je ne suis pas forcément fan du crossfit, mais...
Donc pas du footing classique?
Non, ça m'arrive, mais pas trop fan. Non.
Ok, je pense que tu as dû en bouffer aussi avec tes années foot, et au bout d'un moment, ça devient plus une corvée.
T'en as marre.
Ouais, je comprends.
C'est dingue.
Ok, très intéressant. Donc lundi, mercredi, vendredi, force, genre du gros polyarticulaire, plutôt bas du corps ou tu mixes?
Je suis largement meilleur en bas du corps qu'en membre sup.
Meilleur, je dirais pas, mais en tout cas, je t'ai vu poster des trucs sur Insta avec des intensités et des charges... Ouais. J'étais là en mode, wow, il met du Zercher à genre 140 ou des trucs comme ça. J'étais là, putain, c'est monstrueux.
Ouais, je suis plus à l'aise sur les cannes que sur l'eau du corps. Ouais.
Ok. Peut-être aussi le.
Ouais, le gabarit, l'ADN, j'en sais rien, sûrement, tu vois.
Ok.
Et je sais pas, ça me rassure d'être solide sur mes jambes. Alors qu'il y en a plein, c'est d'avoir des gros pecs, forcément, des gros bras. Moi, ça me rassure plus d'être fort sur mes cannes.
Je pense que c'est un biais aussi, mais surtout une culture. Des sport co, tu vois, moi pour être pas forcément le mec le plus fort sur les membres inf, quand tu arrives avec des sportifs pro, tu te rends compte que les jambes c'est ultra important en fait.
Ouais.
Surtout dans les sports où il y a beaucoup de déplacements en fait.
Cool.
C'est-à-dire que peut-être que sur de la boxe et tout machin, tu peux t'en tirer avec des jambes pas complètement incroyables,
Et encore, ça dépend. Tu fais de la taille, l'intérieur, tu vois. Oui. Ou MMA, comme toi, tu fais.
Là, je pensais plus à la boxe anglaise. Ouais, et encore, tu vois, les coups venant du sol, tu as beaucoup de mecs qui sont performants avec des bonnes jambes. Mm. Mais ce n'est pas un facteur de performance autant que quand tu dois te servir de tes jambes pour. Tu
c'est
vois.
Clair.
Mais dès que tu as du déplacement, de la course, des changements de niveau, des changements d'appui, des décélérations et tout, ouais. En fait, tu arrives dans une nouvelle dimension athlétique, j'ai l'impression. Que moi je connais pas bien en vrai parce que j'ai jamais été passionné de sport co, j'ai jamais suivi d'athlète ou de client en coaching qui venait de sport co, ou alors ils en venaient mais ils voulaient changer, ils voulaient se mettre à la muscu, prendre du gab et tout, donc ça, moi c'est vraiment ça ma sensibilité. Et pour le coup tu te rends compte que si t'as pas de jambes,
c'est clair,
dans ce sport là tu vas nulle part en fait. Enfin,
mais t'as plein de cibles, tu vois, on parle de MMA vu que toi t'es là-dedans, mais le passage au sol, le travail en haut, le corps à corps, le distance, c'est comme t'as à nous aussi. Et comme tu as au rugby, comme tu as dans plein de trucs. Et tu as vu l'enchaînement de tâches quand tu fais duel, contact, shoot, course, mais c'est là que ça crève le plus quand tu enchaînes tout. Toi, pareil, si tu enchaînes la lutte au sol, comment on appelle grasping, non,
ouais, grappling.
Grappling, ouais. Ouais. Tu enchaînes ça, la lutte, le travail debout. Et tout, mais tu es capot ouvert, tu vois. Et c'est l'enchaînement de tâches.
Capot ouvert, j'avais jamais entendu ça.
C'est un peu d'ici, ça. Capot ouvert. Un peu de Toulouse, ouais.
J'aime beaucoup.
Tu vois.
Ok. Donc, bon. Ouais, donc force athlée, haltéro. Haltéro que tu as appris tout seul.
Tout
ou...
seul, ouais. Et je suis de plus en plus à me tâter. Tu vois, c'est bien que tu en parles.
Ouais.
Parce que je suis de plus en plus à me tâter à prendre un coach. Parce
prendre
que
un
je stagne.
Un haltéro pour te.
Ouais. Ouais. Tu vois, je pense à mes potes de Power Camp à Bordeaux.
Pas
ouais.
trop avec le genou, là.
Ouais.
Mais j'aimerais bien me faire un petit cycle d'haltéro avec un mec qui s'y connaît vraiment pour me placer ou une nana pour apprendre. C'est un truc que j'ai négligé depuis longtemps et j'aimerais bien. Mais tu vois, parce que je me disais, ouais, mais risque de blessure,
Bah,
faire du balistique, du rapide, déjà des petites douleurs articulaires, tout machin, est-ce que c'est une bonne idée? Et maintenant que j'ai réussi à, tu vois, notamment grâce à Paul, mon kiné, qui m'a fait un gros travail sur l'épaule, les coudes et tout machin.
Ah oui, t'as pas bossé que sur le genou, t'as bossé partout.
Non,
ah,
okay, ouais, trop je bien. Te l'ai pas dit, mais avec lui, j'ai vraiment optimisé tous les compartiments que j'avais laissé traîner, les petites douleurs que j'avais délaissées pendant longtemps et tout. C'est pour ça que ça a été en vrai une belle opportunité parce que j'ai eu des signes de blessures, douleurs et tout machin, notamment sur le haut du corps pendant pas mal d'années. Et là, je touche du bois, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Alors, il y a un autre facteur, c'est que j'ai moins de sport à incertitude aussi. C'est que tu vois, là, je peux pas boxer, je fais pas de MMA. Donc, en vrai, les conditions dans lesquelles les potentielles douleurs ou blessures peuvent se réexprimer, elles sont très réduites.
Tu l'as pas encore vécu,
Ouais, là, je suis dans un contexte qui est très optimisé, donc c'est normal qu'il y ait moins d'aléas. On verra quand ça
va
reprendre.
Tu vas reprendre avec de l'anglaise d'ailleurs ou tu vas directement reprendre avec du MMA?
Alors, c'est la vraie question. Ouais. le problème, en parlant beaucoup avec mon kiné, c'est que... Alors, je ne sais pas si c'est spécifique au Sud-Ouest, je mets deux balles perdues à personne, mais j'ai beaucoup entendu le problème ici, ce n'est pas le MMA, c'est les mecs qui font du MMA.
Ah,
et,
peut-être, ouais, je ne vais pas te dire.
Et malheureusement, dans les sports de combat, il y a souvent des cultures de kono un peu, tu vois. C'est pour avoir fait beaucoup de clubs de sport de combat depuis des années, aussi bien en judo qu'en boxe, qu'en boxe thaï, qu'en plein de trucs, c'est plus rare de trouver un club avec un coach qui est intelligent, vigilant, bienveillant envers les athlètes,
c'est en train de dire, c'est tous,
qui les surveille,
c'est tous des
bourrins. Et des mecs qui font attention les uns les autres, qui prennent soin les uns des autres, qui essayent d'améliorer ce qu'ils peuvent amener à leur partenaire d'entraînement plutôt que juste de se casser la gueule. C'est beaucoup plus rare que d'arriver dans une salle où le coach est là en mode guéguerre d'ego, si je peux jouer à la sélection naturelle, en mode lui me casse les couilles, s'il y en a pas un qui peut lui péter la gueule. Moi j'ai vu des trucs littéralement, tu vois. Tiens, c'est Hunger Games.
Okay.
C'est le prof, il est là en mode allez, lequel va mettre des mecs dans des catégories de poids différentes, en mode ouais, mais c'est du mental, t'as des couilles ou t'as pas de couilles. Enfin, tu sais, des trucs.
C'est vraiment encore comme ça, Pas un préjugé, tu vois, mais une idée reçue, non? Ok.
Bah, ça existe encore, malheureusement, moi, j'en ai vu beaucoup. Après, je dis pas, il y a probablement des clubs où c'est pas le cas. Et j'en connais, tu vois, mon pote Nicolas Haute, par exemple, Smart Fight, qui est prépa physique, il bosse avec le Mamoudi Gym en région parisienne.
Okay.
C'est un mec extrêmement intelligent. Du coup, il s'entoure d'athlètes qui sont extrêmement intelligents, qui sont visionnaires, qui investissent sur leur carrière sur le long terme, qui n'ont pas envie de se blesser comme des débiles et qui font les choses pour rentabiliser leur qualité, bosser leurs points faibles et aller loin, tu vois.
Il bossait à MMA Fight Factory ou pas? Non, rien à voir.
Il bossait au MMA Factory, c'est un ancien prépa physique du MMA Factory. Okay. Et ça a été compliqué, j'ai l'impression, en termes de gestion. Il y a eu pas mal de désaccords. Lui, il était très proche des athlètes. Je crois que ça ne plaisait pas forcément à certains membres du management et tout. Et il a dû tailler sa route et se réinventer ailleurs. Et il l'a fait de façon ultra brillante et maintenant il manage des athlètes incroyables, tu vois. Enfin, rien qu'au Mahmoudi Gym, t'as des mecs, Elias, Mahmoudi, t'as des pépites qui pop,
qui émergent et qui pop.
En plus du noyau dur des combattants qui sont incroyables, Alexis Nicolas et tout, t'as des mecs qui sont complètement fous, t'as des nanas, Ben Finn qui est là-bas, qui, enfin, bref, il est en train de, tu vois, tu sens en fait son influence
vivier, quoi.
Et l'intelligence de ce truc, il est en train de faire un vivier absolument exceptionnel. Et quand tu les vois s'entraîner, tu comprends. Mais tu vois, en allant là-bas, ça ne m'a pas empêché de me faire péter trois côtes et un tympan sur une seule séance. Donc, ouais, c'est du gros niveau. Je n'ai pas l'impression que ce soit la même chose dans les sports, quoi, tu vois. Il y a peut-être, enfin peut-être, tu vas me dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une intelligence du collectif qui fait qu'on est quand même un peu plus là pour prendre soin les uns des autres. Non, ce n'est pas le cas.
Non, je rigole, j'anticipais un peu. Okay. Non, mais dans le monde amateur, c'est partout pareil, je pense. Tu as des coachs, des athlètes, enfin même pas des athlètes, des sportifs, des amateurs.
Ouais.
C'est amateur, dans tous les sens du terme, un peu comme toi, ce que tu m'as dit. Dans le monde pro, des fois, ben, t'as du pro, mais qui ressemble aussi à du semi-pro. Et franchement, nous, on a plein de trucs à améliorer aussi, à bosser, et encore, et encore, et encore, et même, même au PSG, même dans des clubs énormes, quoi. Non, je pense que tout le monde est à sa place. Où il est actuellement, quoi. Enfin, si le club c'est un club amateur, ça va s'entraîner comme des amateurs. Si c'est un club pro, c'est un club pro. Si c'est bien réputé, c'est bien réputé. En général, il n'y a pas trop de surprises.
Ok.
Ouais.
Intéressant. Ah, j'aurais pensé que tu pouvais avoir des gros clubs pro avec des teams de guignols et.
Il y en a, je pense, tu vois, mais
t'en as quand même.
Ça dure pas, quoi. Tu peux pas. Ça dure pas. Soit ça descend en division inférieure, ou soit ça tient un an ou deux. Mais c'est très rare qu'un club. J'ai une bêtise. Imagine le Stade Toulousain si c'était des guignols, tu vois. Il ne pourrait pas tenir 10-20 ans au très haut niveau, c'est impossible.
Ok, je te mets dans la sauce. on a vu passer il y a quelques années des entraînements en type préparation physique de l'équipe de France de foot.
Ouais, bon, ça, ouais. Okay. Non, on peut réagir, non, t'inquiète, on peut réagir dessus, parce qu'avec des potes, on a réagi dessus. Ouais.
Ok. Qu'est-ce que tu en penses, en vrai?
Vu que c'est sorti, c'est un réel, tu vois. On en fait tous les deux, on sait que tu mets ce que tu veux.
Ok, d'accord.
Okay. Et le problème, c'est justement, c'est vu que c'est sorti du contexte, les personnes qui ont choisi de publier ça, c'est est-ce qu'elles ont choisi de publier ça pour mettre en avant un travail de qualité, enfin, qu'elles estiment de qualité, ou est-ce que c'est un peu ironique, second degré, enfin, tu sais pas trop. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand tu vois ça, tu dis c'est scandaleux. Okay. Mais encore une fois, les mecs qui ont réagi à ça, c'est les mecs qui sont de la culture rugby, handball, sport de combat, qui ont l'habitude de bosser et bien bosser.
Ouais.
Dans le foot, ça bosse comme ça, hein. À part en Angleterre ou en Allemagne, mais en France.
Oui, où il y a une culture du travail, du travail athlétique,
culture de performance,
développement des capacités athlétiques. Et quand tu vois des. Wayne Rooney par rapport à des mecs
Ronaldo,
de chez nous. Ouais. Ouais, okay.
Mais ouais, après en France, il y a des clubs qui bossent très bien, tu vois. Mais ce n'est pas les gros clubs que l'on pense, souvent.
Intéressant. Voilà. Très intéressant.
Pour ne pas un peu tirer à balle perdue pour rien, tu vois. Mais voilà.
Moi, je regarde toujours ça d'un œil extérieur et humble parce que j'y connais pas grand-chose et que c'est pas ma spécialité. Mais tu vois, pour être allé d'un côté faire un entraînement un peu musclé avec les mecs du Stade Français et d'un autre côté, une fois, j'avais eu la chance d'aller à Clairefontaine voir les mecs de l'équipe de France s'entraîner.
Pas photo, je pense.
T'as pas l'impression d'être dans le même sport de haut niveau.
C'est pas
tu
le
vois.
Même monde. Ouais.
Alors que si, alors évidemment, ça n'a pas de logique, mais si tu compares les salaires des mecs, si tu compares le temps qu'ils y passent, si tu compares le niveau d'investissement, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais parce que tu penses que dans le foot, on peut s'en tirer avec des capacités qui sont de la technique ou du génie sur le terrain qui n'ont rien à voir avec potentiellement le développement des capacités athlétiques qui est nécessaire de développer, genre dans le rugby par exemple.
Ouais, je pense que, tu vois, le basket-foot, je l'ai même un peu dans le même truc parce que il y a des très gros salaires, donc il y a l'image de marque, il y a du branding. Et les joueurs sont souvent coachés en one-one ou avec limite un préparateur physique pour eux, tu vois, où c'est très individuel. Dans les sports comme le rugby, c'est des mecs qui ont le plus la culture du travail, dans le handball aussi, dans les sports de combat aussi, je trouve. Et souvent, c'est des mecs qui vont chercher vraiment la performance et s'exprimer par leur physique. Donc, ils vont chercher à tout optimiser physiquement. Moins dans le rugby, moins dans le foot, par exemple, ou moins dans le basket.
Ouais.
Après, ça reste subjectif, ce que je te dis, tu vois. Mmh. Mais c'est juste que c'est... répandu de la sorte, quoi.
Mais bizarrement, quand on a un qui le fait dans le foot à la Ronaldo, tout le monde est là, physique de ouf, les perfs de ouf, comment il fait pour être encore comme ça.
Mais t'en as qui bossent comme Ronaldo, tu vois. Ouais. Mais ils ont un préparateur physique en dehors du club, ils ont des kinés en dehors du club en plus. Ils ont des ressources externes en plus.
Ça demande un investissement personnel qui n'est pas dans la culture globale du on fait ce pour qu'on paye et puis il termine.
C'est ça, grave.
Super intéressant. Ok, donc malgré ton planning, t'as quand même le temps d'arriver à t'entraîner, à faire tout ça.
J'essaie, ouais.
T'as un gros côté entrepreneur aussi, t'as lancé une plateforme qui s'appelle No Minute.
Ouais.
Tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, on a créé nos minutes du coup il y a 4 ans.
Ok.
On est parti du coup tout seul. C'est comme toi quand tu crées tes projets, ouais. Tu pars tout seul, tu fais tout. Et on est arrivé à une quinzaine de collaborateurs.
Ok.
On est toujours salariés. À Toulouse. Non, pas tous salariés, beaucoup okay. de freelance. Il y a 5 salariés, mais sinon le reste c'est freelance.
Ok.
Tu vois. Les développeurs, DAF, comptables, tout ça c'est freelance.
Ok. Logique.
Et ouais, ça coûte en plus une blinde. Et nos minutes, c'est la première plateforme. On veut être la première plateforme de contenu professionnel pour la croissance personnelle. Donc contenu, on a podcast, formation en ligne, séminaire qu'on organise en francophonie. Et quand on dit pour la croissance personnelle, si tu veux, c'est notre slogan, c'est grandir chaque jour. Donc être une meilleure personne qu'hier, dans tous les sens du terme, sur préparation physique et performance, ou sport et performance, diététique, nutrition et entrepreneuriat, leadership. Et donc tu vois, là-dedans, on a ces trois grandes catégories, on a 8 sous-catégories à chaque fois.
Okay.
Et on a 1500, 2000 créateurs et une quarantaine, mais 50 000 membres à peu près sur la plateforme.
Solide.
Mais en ce moment, et on tourne le podcast au bon moment, on est en phase de maintenance. Parce qu'on ne sait pas si on a subi les crashs du serveur ou de la cyberattaque ou du piratage. Et ça fait 3 semaines qu'on n'existe plus, mais on va peut-être revenir, je pense. Donc ça a pété depuis 3 semaines.
Merde,
c'est l'enfer, je jure.
Okay.
Donc c'est pour ça que c'est un peu le chamboule tout là partout pour toutes les équipes, pour moi, pour les associés, pour les investisseurs, pour tout le monde. Ouais, c'est l'enfer, je te jure.
Oh wow.
Ouais. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas trop ce qui va en être. Mais...
Putain, heureusement que tu n'es pas sur le terrain parce que tu étais bon pour une rupture des croisés.
C'est clair, ouais, c'est sûr. Tu vois.
Dans les 2 semaines.
C'est clair.
Oh merde, donc, je suis désolé mon gars.
Non, t'inquiète pas, il n'y a aucun mal à en parler, mais justement c'est pour te donner un peu le contexte et la vérité. C'est
l'entrepreneuriat aussi malheureusement, mais et aussi dans la tech, tu es soumis à des enjeux qui ne sont pas les mêmes que si tu as un business physique. T'en aurais probablement d'autres, mais
c'est pas
le même problème. Il y a 4 ans.
Ouais. Okay. En novembre 2019. Ouais.
Ok. Ouais. Putain, juste avant le Covid.
Donc ça a pété aussi à partir de là, ça avait bien pris. Bénéf, ouais, comme tu as dit.
Une plateforme de formation dématérialisée à un moment où les gens étaient coincés chez eux.
Exactement. Ouais.
Très intéressant. Pourquoi nos minutes? Parce que.
Un maximum de savoir ou de connaissances à la minute sous des formats courts et qualitatifs, on essaie, ouais.
Grave. Ok.
Après, il y a un peu tout maintenant, tu vois, il y a des formats très longs, moins longs.
Super intéressant.
Ouais.
Okay. Tu arrives à ne pas te faire écarteler complètement entre tes prérogatives de prépa physique et ta casquette d'entrepreneur.
C'est compliqué, ouais.
C'est toujours super dur de jongler, mais j'ai l'impression que tu as une grosse structure de vie, tu es très timé. Je me souviens, tu avais posté un réel, tu me dis si je me trompe, mais c'était en mode telle heure levée, telle heure d'éjection, telle heure hydratation, telle heure petit déjeuner.
C'est ça.
J'étais là genre même le mec time quand il fait caca, ce délire.
Ça c'est c'était les routines matinales ou mes blocs que je fais. Bon,
et
quand il y a pas ma copine.
Comme ça.
Non, quand il y a madame, c'est compliqué, c'est dur.
Compliqué.
Mais quand t'es solo ou c'est libre ou que t'as des transitions ou qu'elle est pas là ou toi t'es ailleurs, ça c'est parfait. Ouais.
J'ai toujours trouvé que c'était plus simple d'arriver à se planifier en mode pilote automatique, vraiment machine, quand tu es tout seul. Effectivement, quand tu es en couple ou a fortiori si tu as des enfants ou quoi, ça devient…
grave.
C'est même pas tu rajoutes un plus un, c'est juste l'équation, elle change du tout et tout en fait.
Mais
ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas être aussi performant, mais il faut apprendre à fonctionner différemment, je pense.
Et la phrase « à deux, on va plus loin, ensemble… » Non, « ensemble, on va plus vite ».
Tout seul, on va plus vite.
À deux, on va plus loin. Tu vois, je ne connaissais même pas, mais… Tout seul, on va plus vite, c'est trop vrai. Quand tu es solo, mais moi, t'avances de ouf. Mais tu sais pas forcément si c'est dans la bonne direction.
Je suis d'accord.
Et quand tu es à deux, en général, tu vas peut-être un peu moins vite. Tu prends plus de temps pour ton couple, ta famille, tout le bordel. Mais ta vision est plus claire et c'est plus clarifié en général.
Je suis d'accord. Donc, je suis pas sûr que le but de la vie, ce soit simplement non plus d'être un ultra performeur dans ce que tu fais. Même si c'est cool, tu vois. Il y a des moments quand on est jeune pour avoir faim, pour avancer et tout machin. Mais je suis pas tellement. Je suis plus, en tout cas, dans la glorification des mecs du stacanoviste, tu vois, du taf en mode j'ai montré 3 boîtes qui sont cotées au CAC 40, c'est magnifique, ok, mais j'ai 2 mariages ratés, 4 divorces, enfin c'est…
Puis tu vois les contraintes, hein, franchement, moi je le veux encore un peu au fond de moi, tu vois, être un entrepreneur à succès ou le meilleur d'un prépa physique, mais je me dis, est-ce que tu serais pas mieux avec ton entreprise qui fait, je sais pas, 20, 30, 40K par mois ou je sais pas… 500K à l'année ou 200K à l'année, plutôt que d'avoir des millions ou être coté en bourse, parce que les mecs sont pas heureux, enfin, franchement.
Je pense pas.
Fondamentalement,
en
écoutant tous les… Tu vois, le business que fait par exemple Antoine BM, c'est trop… Enfin, je pense que c'est le meilleur compromis qu'on puisse faire aujourd'hui.
Je pense aussi,
Pas trop de responsabilités, tu n'es pas nomade digital, mais pas loin. Tu as 5, 10 salariés ou 10 freelance max, tu as des petites équipes, c'est à taille humaine, alors que tu vois des Elon Musk et tout, je suis pas sûr qu'ils soient heureux les mecs, tu vois.
Je pense qu'il faut une structure psychologique différente aussi. Moi, je suis pas fait pour fonctionner comme ça. Ça m'excite pas, tu vois. Il y a rien même qui m'attire dans le. Je sais pas. J'ai l'impression, surtout en déconstruisant un peu la réussite de ces mecs ou de ces nanas-là, qu'il y a souvent un. Tu vois, leur why profond, il est souvent arc-bouté sur un gros point de souffrance ou
un mal-être à fond.
Un gros mal-être ou un gros déficit d'ego ou un gros complexe d'infériorité un gros truc qu'il faut compenser.
Ouais.
Et tu vas tout mettre dedans pour te prouver et prouver aux autres que finalement, tu as de la valeur, tu es performant, tu mérites qu'on s'intéresse à toi et tout.
Ou une revanche sur la vie, tu vois. Ouais. C'est un peu ce que je veux, moi, de par mon enfance ou les trucs. Mais plus j'avance, plus je me dis, mais Max, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, tu vois? Et plus j'avance, et plus en écoutant toi, des gars comme toi, des
entours.
Ouais. Plus je me dis, voilà, c'est l'accomplissement qui est le numéro un,
plus
être heureux.
Plus tu prouves et moins t'as approuvé aussi, peut-être d'une certaine façon, tu vois. Enfin.
Et tu vois, libre temporellement est plus important aujourd'hui pour moi que libre financièrement. Après, les deux vont ensemble souvent, mais t'imagines, libre géographiquement, temporellement, c'est vraiment la base. Hein.
Moi, c'est comme ça que j'ai construit ma vie, et je sais que j'ai d'autres enjeux maintenant, et j'ai d'autres trucs auxquels il faut que je fasse face. Tu vois, ma blessure, elle a remis pas mal de trucs en question.
C'est comme un gosse, c'est comme si tu avais eu un gosse limite.
Ouais, comment je crée de la valeur maintenant que je ne peux plus me servir de mon physique? Est-ce que j'ai d'autres solutions? Est-ce que j'ai d'autres leviers à actionner et tout? C'est des vraies questions, tu vois. Mais je ferais un choix différent pour rien au monde, tu vois.
Ouais.
Parce que jamais j'aurais voulu aller construire. Et je ne dis pas que j'en aurais eu la capacité, tu vois. Genre, s'il y a un Elon Musk sur Terre, c'est peut-être parce qu'il n'y a,
c'est pas, pour
y a
rien,
pas de place pour d'autres, tu vois. Mais ouais, c'est pas des quêtes ou des dynamiques de vie qui sont. Ce pourquoi j'avais envie d'avancer et de faire les choses, tu vois. Mine de rien, parce que tu vois, tu fais le mec très modeste et machin.
J'ai appris, je suis pas de base. Je suis vraiment un petit con de base.
C'est vrai?
Je te jure.
Ok, intéressant.
Mec pas humble, tu sais, quand tu sors du foot. Enfin, je te coupe sur ça, mais parce que ça me...
Mais vas-y.
On en parle souvent.
Ouais.
Aujourd'hui, on me dit, ouais, t'es trop humble, t'es posé, t'es carré. Enfin, je suis posé. Je suis une pile électrique.
Ouais, mais t'es mature en
soi. Voilà, je suis mature. Ouais. Mais alors que quand j'avais 18, 19, 20, 21, même jusqu'à 22, 23 ans, un peu sur l'ego, un peu sur la confiance, mais faible estime de soi, un peu dans je veux être le meilleur, donc je veux faire plus, donc je veux montrer, donc si, donc tu vois, un peu, ouais. Et avec le temps, les années, t'apprends à... C'est pas que je suis un caméléon et que j'ai changé ma personne, tu vois.
Okay.
C'est juste que j'ai appris plein de choses qui font qu'aujourd'hui, je connais vraiment mes vraies valeurs.
Putain, c'est intéressant.
Alors qu'avant, vraiment, j'étais un petit con, tu vois. Pas arrogant, mais pas loin.
Mais dans le fond, c'est-à-dire que tu sentais que tu avais ce moteur-là.
Et moi, je m'en rendais compte. Ouais.
Putain, ouais. Bah, tu vois, c'est marrant parce que c'est l'inverse pour moi.
Ouais.
Moi, je me suis jamais considéré comme un mec hautain, prétentieux, supérieur et tout. Et beaucoup de gens, quand j'étais plus jeune, me disaient, tu vois, quand ils apprenaient à me connaître, genre ou quand ils me rencontraient dans une soirée, qu'ils m'avaient vu un peu sur les réseaux avant ou quoi, ils me disaient, ah, mais en fait,
t'es
vachement sympa.
Ouais, pareil.
J'étais là, genre, comment ça, en fait,
pareil.
Genre. Bah ouais, et tu sais, tu sentais qu'au début, les gens, ils sont un peu en mode...
Ils pensent que t'es froid, que t'es distant, que tu te la pètes. Enfin, pas que tu te la pètes, mais que c'est pas non plus supérieur, tu vois. C'est genre, t'es inaccessible, enfin, je sais pas.
Exactement. Ouais. Et alors, moi, mon agent m'a pas mal aidé à corriger le tir là-dessus, tu vois, sur les contenus que tu postes, le type de photos. Tu sais, à l'époque où Insta, c'était vachement des photos de tes torse nu, machin, truc et tout. Et en mode, ok, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Est-ce que t'es en train d'essayer de servir ton ego ou de servir ta communauté, tu vois? Et j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Et c'est très difficile parce que quand tu renvoies quelque chose que toi-même, tu ne perçois pas, tu dis, bah attends, mais non, pourtant, je suis sympa, je suis souriant, j'ai de l'humour, j'essaye d'être empathique avec les gens et tout. Non, pas du tout, ça ne marche pas.
Ouais, ok, c'est clair.
Ça donne quoi, du coup, tu vois? Et donc, déconstruire l'image que tu renvoies toi en sachant que bah, tu es quand même toi-même, tu vois. Tu ne vas pas te forcer tout le temps à essayer de faire un sourire fake pour que les gens disent il a l'air sympa, tu vois.
Ouais.
Ça va marcher encore moins.
Ouais.
Mais bizarrement, avec la maturité et peut-être en vieillissant, en me calmant un peu sur certains trucs et tout, j'ai réussi à réaligner vachement plus la personne que je suis vraiment et la personne que les autres perçoivent.
Exact.
Et maintenant, quand on me dit « Putain, c'est ouf, quand on te rencontre dans la vraie vie, mec, t'es vachement accessible, t'es comme dans tes vidéos, j'ai vraiment l'impression de voir la même personne que je suis depuis 7-8 ans.
»
Ok, tu vois, je sais comment ta file est fait. Et c'est ouf parce que j'ai paradoxe. T'as beaucoup de gens qui se... monte une image ou qui doivent faire énormément de travail pour afficher une façade.
Mmh.
Et moi, en fait, j'ai beaucoup dû bosser pour déconstruire cette façade qui n'était pas moi, en fait. Tu vois, quand je débarquais dans un truc, je n'avais pas envie que les gens se disent ouais, « De toute façon, lui, c'est un petit con prétentieux et tout. » Alors qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, tu vois. Il y a des gens que j'ai rencontrés et au bout de 2-3 mois, ils m'ont dit « Bon, il faut que je t'avoue quelque chose. Tu vois, t'es vraiment un mec avec plein de valeurs, je te kiffe et tout, mais putain, quand je t'ai vu arriver, je pensais vraiment que t'étais un petit trou du cul.
Pareil. Mais ça, il n'y a pas longtemps, toi, ou c'était quand t'étais vraiment plus jeune?
J'ai eu des reality checks un peu comme ça, il y a même jusqu'à l'an dernier, tu vois. Et des gens qui sont proches de moi maintenant et qui m'ont dit, tu vois, c'est marrant parce que j'adore le Antoine dans la vraie vie, mais le Antoine sur Instagram, c'est vraiment
Ouais, mais ça, c'est autre chose encore. Tu vois, les réseaux, c'est... Bah, tu le sais mieux que moi, hein. C'est autre chose. C'est pas qu'on veut montrer le mieux, on montre qui on est vraiment sur les réseaux, mais l'optimal, tu vois, ou le...
Oui, mais moi, j'ai jamais eu l'impression d'instrumentaliser ça, tu vois.
Ouais.
Et donc, en fait, j'ai dû faire cet effort conscient de... Oh, les gens voient ça, c'est qu'il y a un problème dans ma communication et je suis quand même suffisamment câblé pour arriver à percevoir ce qui doit sortir et ce qui doit être atténué, donc il faut que je dose, tu vois. Mais c'est un travail de tous les instants et c'est cool aussi d'avoir... C'est pour ça que j'aime les gens qui sont honnêtes et qui te fournissent des feedbacks qui sont vrais, tu vois.
Ouais.
Moi, j'aime quand j'ai des potes qui m'appellent, qui me disent « J'ai vu ça, c'est marrant, ça te ressemble pas trop, tu vois. » Ça arrive plus maintenant, mais quand ça arrivait, j'étais là. Merci. Tu vois, et les gens parfois marchent sur des œufs parce qu'ils ont peur de heurter ta sensibilité et tout. Mais moi, je considère que j'ai pas d'ego et que tu peux malmener mon image autant que tu veux parce que c'est pas grave en fait. C'est pas une réalité, tu vois.
Ouais.
Mais ok, c'est intéressant que tu sois passé par un.
Ouais,
par un des leviers
deux extrêmes.
Un peu comme ça.
Mais il faut, hein, franchement. Okay. Hein. Et là, je pense que je me suis vraiment trouvé et que je vais évoluer que vers le positif ou vers. Parce que je suis quelqu'un de bien à la base, mais il y avait toujours ce truc. J'ai besoin de prouver, j'ai besoin de montrer, c'est une revanche sur la vie, ouais, Dark Side, tu vois.
Intéressant.
Je veux être le meilleur, mais non, en fait, si tu veux être le meilleur, ok, mais continue toujours d'aider les gens, de partager, d'être bienveillant, de toujours être neutre, non, c'est ce que j'avais pas quand j'étais ado, quoi.
La déconstruction de l'ego à l'aune de, tu vois, des expériences de vie, aussi des traumas que tu peux avoir au fur et à mesure en grandissant, des trucs que tu traverses, des relations humaines que tu entretiens, etc., font, je pense que... T'as touché du doigt un truc qui est essentiel, mais qui est le fait qu'au final, ça importe assez peu, tu vois. Enfin, je sais pas, mais moi, plus j'avance et plus je fais des trucs, et plus je me dis, oui, mais, tu vois, genre, tu vas mourir 30 ans après, 10 ans après, 5 ans après, à part les gens qui t'ont vraiment aimé, personne ne s'en souviendra vraiment.
Ouais.
Et même une fois que ces gens-là seront morts, tu seras un nom sur un arbre généalogique et terminé, tu vois, au mieux.
Tu sais que j'ai eu une discussion hier soir, mais avec ma copine sur ça.
Ok.
Où j'ai rien dit, je l'ai écouté et en fait elle dit on parlait d'avoir d'enfants, pas d'enfants, tout ça. Pour l'instant, nous on n'en veut pas, tu vois.
Okay.
Bref,
n'importe quelle raison,
29. Et elles n'ont plus. Et à un moment, elle sort une phrase, elle dit mais de toute façon, pourquoi tout le monde veut laisser une trace sur. Enfin, oui, pourquoi les gens veulent laisser forcément une trace sur le monde? Le monde, il n'en a rien à foutre de nous, l'univers n'a rien à foutre de nous et tout. Et dans ma tête, moi, ça m'a fait tilt parce que je suis quelqu'un qui veut laisser une trace positive ou. Marquer l'histoire, mais dans mon univers, dans mon truc.
Okay.
Et je me suis dit, putain, mais elle n'a pas tort, en fait, tu vois. Je n'irai pas jusqu'à la contredire. Je ne vais pas aller la contredire. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'elle n'a pas tort. C'est vrai que je ne dis pas que du coup, il faut se laisser aller et se la couler douce. Mais comme tu l'as dit, on va mourir seul, entre guillemets. L'environnement, il se restreint, plus t'avances. Et même si tu marques les choses, bah, tu regardes Michael Jackson, Johnny Hallyday, enfin bref, tous les gens, tu les as oubliés. Merde, le basketteur Kobe Bryant, légende, mais c'est pas qu'on l'a oublié, mais oui, tu vois. Donc nous, à notre échelle, on veut prouver au monde, mais au final, quoi, tu vois.
Je pense qu'il vaut mieux essayer de laisser une trace dans la mémoire des gens auprès de qui tu peux amener de la valeur ajoutée.
C'est ça.
Ta famille, tes proches, tes amis, les gens que tu peux croiser sur ta route, que tu peux aider, ta communauté, tu vois. Tu vois, je vois que tu as une communauté qui grandit vachement vite, d'ailleurs, félicitations. On va y revenir, mais... tu peux aider en étant la meilleure version possible de toi-même des gens dont tu n'as même pas connaissance, qui sont un chiffre parmi une masse quasiment indifférenciable de gens qui suivent tes aventures et ton travail. Et c'est déjà énorme, en fait.
C'est clair.
C'est-à-dire que la valeur ajoutée que tu peux apporter dans la vie de gens que peut-être tu ne croiseras jamais physiquement, elle est tellement importante que tu n'as pas besoin d'aller... construire des hôtels pour ton ego et des trucs monstrueux juste pour te mettre en avant toi et laisser une... Enfin, tu vois, genre, pourquoi faire,
d'accord.
En fait. Enfin, je suis pas Napoléon, je suis pas Ramsès II, je suis pas Champollion. Je suis pas non plus un mec avec des capacités intellectuelles tellement géniales à la Blaise Pascal, à la ce que tu veux, que tu laisseras une trace de fait parce que ce que tu as fait pour l'avancement de la marche de l'humanité est tel que de toute façon, tout le monde t'en sera éternellement reconnaissant ou au moins une partie de la population qui se sera intéressée à ça. Le reste, c'est est-ce que tu es capable d'être un homme bien, je pense, et de vivre en fonction de tes valeurs pour avancer dans la meilleure direction qui soit, sans faire de mal aux gens que tu aimes et essayer de faire du mieux
la
possible,
sagesse.
Tu vois.
Tu sais, tu résumes ça à la sagesse, un peu. Leadership et sagesse, je trouve.
Ouais. J'ai lu le bouquin de mon pote Cyrus North récemment qui s'appelle Le Code, qui est extrêmement intéressant.
En plus, je fais que lire, mais j'ai pas lu celui-là.
Qui reprend les bases de la philosophie stoïcienne.
Okay.
Et qui les met au goût du jour et qui les confronte un peu à notre postmodernité et qui met en valeur les enjeux de nos vies actuelles face aux enseignements du stoïcisme. C'est extrêmement intéressant. C'est super accessible. Si tu as envie de te mettre ça sur ta reading list, je te le conseille. C'est vraiment cool.
Tu me le donneras après par écrit, le titre exact, parce que là, je vais oublier sinon. Le code.
Ouais. Super facile. C'est là où je trouve que c'est un génie, Cyrus, pour le coup, parce que c'est un mec très intelligent. Et tu vois, dans un bouquin comme ça, il a réussi à mettre à la portée de n'importe qui des connaissances et des principes et des préceptes philosophiques qui sont quand même pas obscurs, mais qui sont normalement réservés un peu aux initiés.
Ouais,
tu vois.
Ouais.
Pour commencer à t'intéresser à ça, il faut être allé au lycée, il faut avoir fait de la philo, il faut être tombé sur un bon prof de philo qui t'a sensibilisé un peu à ça, ou avoir fait des études supérieures où tu as pu mettre un peu le nez dedans.
T'es ouvert, tu vois.
Je connais extrêmement peu de gens qui, à 13-14 ans, chopent du Spinoza ou du Schopenhauer et se disent « Tiens, vas-y, non. » Tu vois, il y en a. Mais c'est
minoritaire.
C'est 1 pour 10 000, tu vois. Donc, c'est quand même des connaissances ou des sensibilités qui étaient, à mon sens, réservées plus ou moins à des élites intellectuelles ou à une intelligentsia qui a fait la fac, une prépa, des grandes écoles, etc. Et avec un bouquin pareil, il arrive à mettre, je pense, entre toutes les mains des trucs qui sont extrêmement forts et puissants, et
trop
pas
bien.
Que sur le plan de la connaissance, aussi sur le plan de l'action et de comment tu peux améliorer ton système de réflexion en tant qu'homme ou femme. C'est vraiment fort.
Je crois que tu as fait la meilleure pub pour un livre qu'on peut faire.
Je pense qu'il n'a pas besoin de pub.
Non, mais ce n'est pas une pub, mais tu vois, le meilleur résumé ou critique. Ouais,
c'est un livre qui m'a beaucoup plu et que tu peux, je pense, en plus relire et qui va pouvoir te suivre dans ton évolution en tant qu'homme. C'est vraiment cool. Bref, Cyrus, si tu vois ce podcast, il y a peu de chance, mais on t'embrasse fort. Merci beaucoup pour cet ouvrage qui est très, très chouette. Tu lis beaucoup, tu me dis?
Ouais.
Tu lis quoi?
De l'entrepreneuriat, leadership, optimisation du temps, prépa physique, mais de moins en moins prépa physique. Mais surtout des... Bon, autobiographie, forcément, mais surtout des livres sur l'entrepreneuriat. Chez moi, j'ai un gros vaisselier qui sert de bibliothèque.
Okay.
Et dedans, j'ai tous les grands classiques, mais j'ai eu plus de 500 livres à un moment dans ma bibliothèque. Là, je pense que j'en ai 200 ou 300, mais j'en donne aussi pas. Parfois, j'en vends.
C'est un trait commun à tous les gens qui se remettent en question sur le long terme, qui avancent et qui s'épanouissent dans leur dynamique, j'ai l'impression, c'est vraiment d'être capable de capter de l'information et de l'assimiler, en fait. Que ce soit de la lecture, des podcasts, des audiobooks, n'importe quoi. Mais tu as besoin de faire rentrer des inputs et de les...
J'ai toujours ça, moi.
Et de les podcast, synthétiser, quoi.
De plus en plus YouTube, d'ailleurs. Podcasts, vidéos, livres, articles, peu importe.
Plus de fiction, quasiment pas.
J'ai jamais eu. Je suis une brêle en culture science-fiction, cinématographique. Ah ouais, je connais rien, mais rien.
Okay.
Franchement, j'ai dû voir 10 films dans ma vie. Enfin, de base, tu vois, avant de connaître ma copine. Et ma copine qui est fan de films et tout, elle m'apprend plein de trucs.
Super.
Tu vois, genre Tom Hanks, tu vois, tous les classiques de Tom Hanks, les classiques de DiCaprio, je connaissais rien, mon gars.
Okay.
Donc, elle m'a fait regarder les classiques et tout, tu vois.
Okay.
Mais folie.
Ah, c'est marrant, voilà. Ça c'est très, très
J'ai cool. jamais regardé la télé. Tu vois, j'ai pas de télé depuis que j'ai 15-16 ans. Enfin, depuis que je vis seul, tu vois, j'ai jamais eu de télé. Toi, je pense pareil.
Besoin,
pareil
je pense.
Ou quoi,
Moi, j'ai jamais été un grand consommateur de télé. Ouais. Par contre, je suis un grand fan de cinéma. J'ai toujours kiffé ça. Et tu vois, moi, c'était mon petit plaisir coupable en prépa. C'était que je rentrais, je faisais mes colles, mes trucs, je révisais mes cours jusqu'à genre 21h30, 22h. Et genre, à partir du jeudi, vendredi soir, je me disais, allez, vas-y, c'est bon, pré-weekend. Et je me faisais un film le soir où je me tapais des grands classiques, du Kubrick, des trucs où je me... En fait, j'avais la chance d'être avec des geeks en prépa. Moi, j'étais en prépa littéraire.
C'était
encore
prépa qui était en littéraire.
J'ai fait lettres et sciences sociales. Ouais. J'étais en prépa BL.
Un peu de journalisme, peut-être.
Ouais.
Aussi. Ah, okay.
Mais en fait, dans l'internat où j'étais, j'étais à Orléans en prépa. Tous ceux qui sont au lycée Potier à Orléans, ils se reconnaîtraient. on vous embrasse. J'étais avec tous les mecs qui étaient en maths sup, maths spé, en fait. Et il y avait des sacrés geeks. Je te parle de ça, c'était 2006-2007.
Ouais.
Donc, c'est à l'époque où, tu vois, il y avait très peu de MacBook, on n'avait pas trop de disques durs externes, c'est de clair. Google Drive, de machin. Et tu avais toujours un ou deux mecs qui avaient des grosses espèces de disques durs qui devaient faire, je sais pas, 300 gigas à l'époque et qui avait 200 films et tout machin et qui les partageait. Et du coup, on se faisait tourner des trucs comme ça. Et moi, dès que je pouvais, je chopais un ou deux films et généralement par semaine, j'arrivais
là, ouais.
À.
Ouais.
Okay. Et on avait un ciné-club aussi dans la prépa qui était animé par des prépas littéraires aussi. Et du coup, tous les mercredis soirs, ils diffusaient un film un peu cul, tu vois. Il y avait des sagas, des sagas Kubrick, il y avait des sagas Tarantino, il y avait des sagas. Et c'était chouette. Et ça permettait un peu d'entretenir un peu de légèreté culturelle, je trouve, dans ce monde de la prépa qui est quand même un peu lourd et dur et où t'oblige à lire des trucs qui sont quand même intéressants, mais parfois un peu barbants.
Dur à mâcher,
ouais. Et tu vois, pouvoir aller s'aérer un peu l'esprit avec des trucs un peu plus accessibles, un peu plus ludiques, je trouvais que c'était cool. Et c'est toujours resté mon petit moment de, pas de récréation, mais de détente créative. En fait, tu vois, j'adore aller au cinéma.
Pour décabler un peu.
Ouais, j'adore. J'adore suivre les métaphores que des réalisateurs vont filer sur toute leur carrière au fur et à mesure de film, en reprenant des références, en reprenant des personnages et tout, c'est vraiment un kiff. Mais ça n'a de valeur que ce que ça te permet de glaner en termes d'enrichissement, de perception de ta vie, tu vois. C'est pas, enfin, t'es la preuve sans doute qu'on peut être ultra performant et ultra épanoui dans un domaine sans forcément avoir ce genre de culture ou de sensibilité-là. Donc, mais c'est marrant parce que je te posais la question, j'ai connu beaucoup de gens qui ont eu en fait un parcours de formation un peu classique, un peu plus comme le mien, qui bouffaient pas mal de fiction ou en tout cas de littérature ou de trucs et qui ont dramatiquement arrêté ils ont décidé de commencer à, tu vois, rentrer dans l'entrepreneuriat, monter des boîtes et tout, et où tu te dis, ok, là, il y a des grosses connaissances techniques qui me manquent. Et j'ai plus le temps pour la littérature classique, les bouquins de littérature romantique du 18e et machin. Il faut que je me mette à apprendre l'entrepreneuriat, apprendre le codage, apprendre le marketing, apprendre le...
Que des livres, en fait, savoir-faire, tu vois. Et pas... c'est pas du divertissement, mais comme on dit, ouais, fictif, c'est ça, ouais, tu vois. Donc, non, mais... Je pense que lire, j'aurais du mal là-dessus. Lire des trucs sur la science-fiction ou... n'importe quoi d'autre, mais c'est vrai que regarder, tu vois, le film Attrape-moi si tu peux, tu vois, ou comment il s'appelle le film de Tom Hanks avec quand il est tout seul sur l'île, Robinson, genre, tu vois, des films, ouais, Seulement, des films comme ça, c'est un message de ouf, tu vois,
derrière. Moi, c'est une des bases de mon enfance.
Mais dès que je l'ai vu,
j'ai
adoré
tous les dialogues par cœur.
Ah ouais,
toutes les situations, mais même je me suis tellement identifié au personnage d'être capable de, tu vois, de c'est un peu la métaphore de mon parcours, moi, de d'avoir plein de casquettes, de changer, de pouvoir faire plein de trucs et tout.
T'adapter, tu vois.
Ça et le caméléon quand j'étais môme et tout, c'est des trucs qui ont résonné fort. Ça.
Ah ouais, mais ça m'a fait un, tu vois, alors que je me dis, ouais, c'est un film, c'est bon. Mais au final, je pense que t'as des films qui sont vraiment, qui ont, pas une morale, mais un sens, tu vois. Et ouais, c'est ça que j'aime bien.
Tu vois, pour moi, c'est un plaisir de, tu vois, le père dans, d'ailleurs, je sais jamais, c'est un blasphème, mais je sais jamais si c'est Arrête-moi si tu veux ou Attrape-moi, je crois que c'est Attrape-moi, parce qu'en anglais, c'est Catch Me. Ouais. Le père de DiCaprio dans le film, c'est Christopher Walken.
Okay.
Qui est un très grand acteur, Christopher Walken. Là, je suis allé voir Dune 2 au cinéma.
Ouais,
tu vois, il leur faut un mec pour jouer l'empereur. L'empereur, c'est Christopher Walken. Et tu vois, c'est marrant pour moi de me dire, 20 ans après, tu revois ce mec qui a une performance où il est très dans le... Tu vois, il est très présent, mais en même temps, il parle pas beaucoup et tout machin. Et c'est drôle, tu vois, de suivre des parcours de vie comme ça, de réalisateur à la fois et d'acteur. Moi, c'est un petit kiff de me dire, tiens, tu vois, tu repères des trucs et c'est des trucs que la plupart des gens ne vont pas forcément voir parce qu'ils voient un mec à 70 piges, ils ne savent pas forcément qui fait. Et en fait, toi, tu vois dans la construction de l'histoire de ce type-là, par où il est passé, le type de rôle qu'il a pu avoir et tout, c'est assez chouette. C'est assez cool.
Trop bien. Du coup, voilà, je m'intéresse de plus en plus au cinéma.
Ok. C'est cool. Après, c'est peut-être il y a des périodes dans une vie aussi, peut-être que quand tu seras plus vieux, que tu seras à la retraite, que tu n'auras plus besoin de performer. Ouais, tu auras peut-être plus le temps, plus l'envie, ou c'est des sensibilités aussi, le type de gens qui sont proches de toi et tout machin. Ok. Très, très cool. Sport individuel ? Pas du tout. C'est pas ta sensibilité, c'est pas ton kiff.
Je suis nul en sport individuel.
Tu penses que t'es nul ?
À part ski, je me démerde bien.
Okay.
Tu mets tennis, ping-pong. Non, boxe aussi, j'aime bien les sports de combat.
Ok.
Mais tennis, tu vois, les sports de racket, déjà, oublie-moi. Oh, oublie-moi, l'enfer.
Okay.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sport indiv? Ski, ça va. Les sports de combat, j'adore. Je sais que dès que je vais être un peu plus tranquille, je vais m'y mettre, tu vois.
Okay.
Donc tous les...
Tu te mettras à quoi?
Taille, je pense. J'aime tout ce qui est complet. Tu vois, l'anglais, ce serait trop...
Restrictif
pour moi, je pense. La taille, ça me dit bien. MMA, si je progresse bien en taille et que j'ai un certain niveau, mais sinon je vais me faire défoncer tout de suite, tu vois. mais ouais, sport indiv, ouais, non. Pas forcément.
Ok.
Ouais. Natation, okay. Je déteste, tu vois. Je suis pas bon.
Ok.
Mais ouais, je suis vraiment un gars de sport co, moi.
Pourquoi, tu penses?
Déjà, j'aime être au contact des mecs, relations. J'aime savoir que chacun a son rôle à jouer et que la performance se fait en collectif. Ouais, j'aime l'ambiance, tu vois, l'ambiance de vestiaire, un sport co. Franchement, ouais, tu me demandais au début, je pense, qu'est-ce que j'aimais ou un truc comme ça, j'ai oublié. L'ambiance de vestiaire, c'est la vie de vestiaire. Tu vois, le fait qu'en plus, préparateur physique, t'es dans le vestiaire staff, t'es dans le vestiaire joueur, t'es dans le vestiaire médical. T'es un peu partout, tu vois, t'es un peu un caméléon, t'es un peu au courant de tout ce qui se passe partout et c'est un peu des ragots ou des trucs, enfin, ou des histoires. Ouais, la vie de vestiaire, c'est, dans le sport co, c'est autre qu'individuel, je pense.
C'est marrant, tu vois, c'est un truc qui m'attire et c'est une culture que j'ai pas pourtant. C'est un ouais. truc que j'ai jamais vraiment vécu. J'ai fait du foot petit, mais tu vois, ouais. c'était à Bastia, en Corse. On Énorme. Passait plus de temps à se battre à la fin des matchs quand j'avais 6 ans.
Ouais, Bastia ou juste à côté ou quoi?
Je joue à Montésor.
Ok, ouais,
donc,
pas loin,
je sais même pas si le club existe encore. Okay. C'est dans le nord de Bastia, si ouais, je dis pas de conneries, ouais. Montésor. Ouais. C'était un sketch.
Ouais.
On tapait trois fois dans le ballon et c'était bagarre générale à chaque fin de match, tu vois.
Ouais, bah après,
toujours
c'est,
pour des prétextes.
Quand on est petit, c'est toujours pareil.
Ouais. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que j'avais pas aussi la compréhension du milieu social. Je pense qu'il devait y avoir pas mal de cassos avec qui jouer.
C'était Corse,
c'est pas
trop. C'est pas facile.
Ils ont un peu le sang chaud, peut-être. Ouais, ça joue, je sais pas. Mais tu vois, j'ai fait que le foot en vrai, en sport collectif. J'ai jamais joué au rugby en club, j'ai jamais joué. Et ouais, ça a jamais. En fait, je pense que la mauvaise expérience du foot
ouais.
a fait que j'ai joué Direct un an plus. Et demi, ou un an, même pas deux ans, je crois. J'ai fait un an en Corse. Et ça m'a gavé, en
okay,
fait.
Okay. T'avais quel âge?
J'avais 6 ans.
Ah oui,
sept
ok.
Ans.
Et tu imagines si tu commences
J'étais
par ça, ta vie
petit.
Entre
ouais,
guillemets.
Ouais. Ah ouais. Et tu vois, j'avais le judo en parallèle. Ouais, en fait, il y avait tellement plus de valeur dans le judo. Dans
judo,
le...
mes parents, ils m'ont inscrit là, à
tu
5
vois,
ans.
Le code Folie. Moral, le respect, le contrôle de soi, la confiance dans les autres et tout machin. Que j'ai vu les deux, j'ai fait ouais, ok, ciao. Tu vois, genre, et je pense que ça a biaisé ma perception parce qu'il y a probablement plein de trucs à prendre dans le sport co, comme tu dis, et la façon dont tu les décris, ça anoblit vachement cette culture-là que moi, j'ai pas reçue, que j'ai pas. Intéressant, très intéressant. C'est un truc auquel j'aime bien revenir, tu vois, le fait de pouvoir aller faire des vidéos, par exemple, avec dans des clubs pro et tout, pour moi, c'est super enrichissant parce que déjà, c'est très dur.
Ouais.
En termes d'entraînement, de niveau de jeu et tout machin, c'est un truc de ouf. En termes de niveau de force, de capacité athlétique, tu te rends compte que tu es à des années-lumière. Mais c'est aussi difficile en termes d'intégration, d'arriver en étant un petit mouton tout seul au milieu de la c'est meute clair. De loups. Les mecs, ils te regardent vraiment comme un outsider et en mode. Okay.
Tu parles de toi quand tu es arrivé au stade là
ou ouais, par exemple.
Ouais, par exemple.
Par exemple, bah oui. Ouais. Mais, ou même, je pense que si tu commences un sport co et que tu arrives ouais. dans une équipe qui est déjà constituée. Tu vois, moi, j'avais un père qui était militaire, donc j'ai déménagé bouger, ouais. tout le temps. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis tourné inconsciemment vers des sports individuels parce que,
bah, ok, t'as pas
tu
le
fais
temps
du judo,
de...
c'est difficile de retisser des liens, de te refaire une place dans une équipe où les mecs, ils se connaissent, ils sont comme cul et chemise depuis qu'ils ont
c'est
5
clair.
Ans, tu vois.
Ouais.
C'est pas simple. Et je pense que tu le mentionnais tout à l'heure, quand tu as des joueurs internationaux ou des joueurs qui tournent un peu dans des équipes, ça doit pas être simple de retrouver ta place et de refaire ton trou, de reconstruire ta légitimité, de tisser les liens qui sont importants pour le succès d'une équipe, tu vois, sur le terrain. À mon avis, tu peux pas bien jouer si tu te connais pas bien.
C'est clair.
Et du coup, quand tu as un nouveau joueur qui arrive, ça doit être un gros enjeu d'intégration de tout le taf que tu vas faire sur le terrain, mais aussi en dehors, pour t'intégrer, quoi. Et si en plus tu parles pas la langue, tu es un peu extérieur à la culture, le milieu, la ville, le truc et tout, ça doit pas être simple, en vrai.
Mais tu vois, on a un joueur, nous. Tu parles de ça, il a 34 ans maintenant, il a fait 12 clubs en 12 ans, dans plein de pays, handball, et là c'est sa troisième année à Toulouse, il arrive à Toulouse et il a trouvé un truc. Mais les gens adorent Toulouse, pas forcément par le club, mais tu sais la ville, bon déjà la ville ils adorent,
okay.
une certaine ambiance, leurs femmes, leurs gosses, ils kiffent.
Parce que quand t'es allé jouer à Düsseldorf,
ouais, des trucs comme ça, exact.
Okay, c'est
mais
cool.
Franchement Toulouse t'as un certain lifestyle et cadre de vie que tu retrouves pas à Paris ou à Lyon, mine de rien, ou des trucs comme ça.
Okay.
Et ouais et du coup bah, c'est sa troisième année.
Je sens pas trop moi paradoxalement tu vois.
T'as dit quoi?
Que je perçois pas trop.
Et ouais mais faut être au Toulouse centre. Ouais. C'est vrai que Toulouse c'est qui tout double. Moi j'adore encore Toulouse. Je commence un peu à en avoir marre.
Okay.
Mais je trouve que ça s'est un peu dégradé. Ça craint plus qu'avant. C'est plus sale qu'avant.
Okay.
C'est
ouais.
Mais c'est toujours aussi beau et convivial et l'ambiance. L'ambiance elle est ouf tu vois les gens.
Okay.
Mais c'est vrai que si t'habites en dehors c'est l'Ardenne que t'es non?
C'est ouais, plutôt dans ce coin-là.
Tu vois, si t'es là, t'es un peu en dehors de Toulouse, tu sens pas vraiment le truc. Mais quand t'es vraiment tous les jours enfin, en centre-ville, parce que mine de rien, on est le seul palais des sports de France à être en centre-ville.
C'est vrai que c'est ultra central.
Ouais.
Alors que normalement, tu es sur les extérieurs et tout machin.
Au niveau parking, c'est la merde pour se garer. Ouais, tu as des gros parkings autour et tu as le métro.
Du coup, tes joueurs, ils habitent autour.
Ouais, ils sont tous pas loin. Ils viennent en vélo en général.
Ils viennent en vélo, en trottinette. Ça m'avait frappé.
Ou voiture du club. Mais
au stade français aussi, les mecs, ils venaient. Je les voyais débarquer le matin en scooter sans cash. Mais les gars, vous venez d'où? Ah, mais on est juste là derrière Jean-Bon et tout. T'es là, genre, ok. C'est assez drôle.
C'est clair.
Ok, Max. Je pense qu'on a déblayé beaucoup de sujets. Généralement, j'aime bien finir avec des petites questions un peu, tu sais, dans le style des rapid fire questions. J'ai des petites questions de tac au tac. Je vais essayer de tenir mon téléphone loin de mon micro pour ne pas créer d'interférences parce qu'on a remarqué que ça le faisait depuis tout à l'heure. C'est pour ça que vous avez dû, si vous êtes suffisamment habile et observateur, percevoir que j'avais changé de micro en cours de route. À quel moment, mystère. Je te pose des questions. Le jeu, c'est que tu me réponds que par une des deux propositions que je te fais.
Vas-y.
Après, à la fin, on pourra donner du contexte aussi, mais bon, y a que ça ou ça.
Vas-y.
À chaque fois, c'est très simple. Bon, du coup, j'ai eu pas mal de réponses aux questions, mais c'est bien, ça va permettre de refaire un petit écho. Sport co ou sport individuel?
Sport co.
Force ou mobilité?
Force.
Force ou vitesse?
Force.
Haut du corps ou bas du corps?
Bas du corps.
Prépa ou réathlé?
Réathlé.
Ok. Ouais. Action ou planification?
Action.
Réseaux sociaux ou terrain?
Mais terrain, 100%, mais les réseaux, c'est vrai que ça prend une place dans ma vie de plus en plus importante. Ouais.
Ok. Temps ou argent?
Temps.
Okay.
Les deux viennent, enfin, les deux viennent, sont une conséquence de l'autre. Ouais.
Motivation ou discipline?
Discipline.
Nickel.
C'était pas motivation.
Je pense que j'avais toutes les réponses avant de poser la question.
Trop bien.
Trop cool, Max. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci du temps que tu nous as accordé pour cette petite interview qui m'a fait vachement plaisir. C'est très cool d'avoir pu faire ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les mois ou les années à venir? On n'en a pas parlé parce que je voulais faire cette petite transition sur la fin, mais du coup cette période de tes 8 années auprès des Phoenix Toulouse va prendre fin en juin.
Ouais.
Tu rends ta casquette de prépa ici.
Exact.
Parce que tu avais envie de voir autre chose, de changer d'air. Ouais. Ok.
Gros
parce
risque.
Que tu as une envie. Ouais, carrément. Gros risque, ouais. Grosse prise de risque parce que tu étais successful ici, que je pense que tu es très aimé, que tu as fait un super taf avec les mecs. Est-ce que tu as déjà trouvé ce que tu as envie de faire après? Est-ce que tu pars parce que tu as trouvé un autre truc que tu as envie d'investiguer? Ou est-ce que tu as envie de te donner le temps d'explorer, d'être libre de...
Alors, tu as un peu répondu à tout, mais j'ai donné ma démission du coup un an à l'avance.
Ouais.
Parce que ça fait 2 ans que j'ai des propositions de club et que je devais partir.
Okay.
Et donc, à chaque fois, ça se faisait vers avril-mai. Ouais. Et si je partais, ça laissait un peu le club dans la merde.
Okay.
Donc là, en juin dernier, je leur ai dit bon, ben. On fait ça et je donne ma démission maintenant.
Super cool de ta part.
Ça n'a pas été, ça n'a pas été bien vu ou bien, enfin, ce qui est normal, c'est une démission, tu vois. Mais
ouais.
Et je l'ai donné sans avoir quelconque contrat ailleurs ou signé ailleurs.
Okay.
Et là, on est à ce jour et j'ai toujours pas signé ailleurs. J'ai refusé 5-6 propositions, 5-6 clubs.
Okay.
Je suis en discussion avec 4 ou 5 autres, tu vois. Il n'y a rien de signé, de finalisé encore. S'il faut, il y aura, ce que je me souhaite. S'il faut, il n'y aura pas. Et s'il n'y a pas, c'est ce que ma copine souhaite aussi, c'est qu'on puisse faire un peu un trip, un tour du monde, tu vois, bouger un an ou deux, tu vois.
Okay.
Parce je pense que faire une transition aussi, ça peut me faire du bien. Ouais.
Parce qu'on n'en a pas parlé pour de vrai, mais c'est une vraie disponibilité, un vrai investissement au quotidien de vivre au rythme d'une équipe pro.
C'est ça.
Et tu ne pars pas à l'étranger en vacances, à moins que tes joueurs soient en coupure.
Non, tu ne pars pas souvent, c'est ça. À moins que tu aies des coupures où on a vraiment 3 semaines par an de vacances, tu vois, et on essaie de partir dès qu'on peut, on part. Mais voilà. Ou alors dès qu'on a 4-5 jours, on part, mais c'est rare.
Tu prends pas 3-4 mois pour partir en Asie du Sud-Est et faire un tour du monde.
J'ai fait moi quand j'étais en études. Tu vois, tu sais, je suis parti au Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, mais de mon plein gré et où en études, je me mettais défaillant du coup. Et donc je carburais juste en prépa physique et 3-4 matières qui étaient intéressantes. Mais après le reste, je mettais de côté, je préférais partir voyager. Mais sinon, c'est vrai que c'est des petits séjours, quoi. Donc là, j'ai vraiment envie aussi de bouger et voir autre chose.
Ok. Mais si jamais l'opportunité se présente et qu'il y a un truc intéressant qui vient passer, ça va être prépa physique dans une équipe pro de sport collectif.
Ouais, exact. Ouais.
Ok. Plutôt ici, plutôt ailleurs, tu sais pas trop.
Il y a les deux qui peuvent se faire,
Ok.
Ouais. Je pense plus ailleurs, mais ouais. Voilà. Okay. Mais t'en sauras plus, de toute façon, tu sauras direct.
Je gratte plus, mais ok.
Tant que c'est pas officiel, j'en parle pas, tu vois.
C'est tout le bonheur qu'on te souhaite.
C'est gentil.
Félicitations pour ce que t'as fait déjà jusque-là. Et ton approche et ta dynamique sont super intéressantes. Je suis certain que les gens qui verront cette interview et cet épisode du podcast, ils seront super contents d'avoir pu bénéficier de tout ça. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
On mettra ton Instagram en dessous. Tu t'es entendu dire tout à l'heure que tu n'avais pas de chaîne YouTube. C'est pas un souhait que tu as ou c'est pas un truc que tu as envie de.
Non, je pense que j'ai raté le train, tout simplement. Tu vois.
Pourquoi?
Bah, je sais pas, YouTube, tu sais, tout le monde dit il faut se lancer cette année, mais les mecs sont
cette
sur YouTube.
Cette année ? Ah ouais ?
Bah, okay. Tu sais, à chaque fois, tu as des vidéos. Tu vois, Antoine, il a fait une vidéo, pourquoi se lancer sur YouTube en 2024 ?
Ouais, ouais,
je pense que les gars qui ont pris le train.
En 2025 et...
Ouais, mais je pense que les gars qui ont pris le train, les Michou, Inox, les toi, les Thibaut, les Antoine, les. Enfin bref, et, bon, les Yumi Denzel et tout.
Ils vont mettre dans le même saut que ces mecs-là, mais.
Mais non, mais. Ouais, je pense que le train, il était il y a 4, 5, 6 ans, tu vois.
Ok.
Ouais, maintenant. Je sais pas, je pense qu'il y aurait de la place, mais faut vraiment. Je me dis, si je fais YouTube, faut que ce soit focus 100% YouTube. On peut pas faire à moitié, non ?
C'est dur. Hein.
Peut-être que je me trompe, ouais.
Mais... Moi, j'ai toujours l'envie de pas d'éparpiller mes œufs dans des paniers différents, mais ouais. de continuer à faire des trucs qui me plaisent sans forcément surperformer dans un domaine. Et ouais, ça ouais. m'intéresse pas forcément d'avoir 10 millions d'abonnés sur YouTube, tu vois. J'ai juste envie de me créer des opportunités et que toute ma création de contenu me permette et de diffuser de la valeur
ouais.
et d'avoir accès à des trucs auxquels je n'avais pas accès en termes de, oh. terme de contact, en termes de, d'expérience, en termes de, tu vois, donc...
Je te dirai de toute façon, si je viens sur, de toute façon, j'y suis un peu sur YouTube en short, mais je reposte simplement. Mais vraiment créer du contenu comme toi tu fais, les miniatures, le titre, toute la stratégie, la création de, tu vois, tout ça, enfin, c'est du format long. Et format long, moi, je le faisais via le podcast et via la plateforme. Mais en YouTube, je pense que vraiment c'est un boulot. C'est pas un temps plein, mais tu peux vite aller un temps plein.
Ouais, ouais. C'est vite.
Donc voilà.
Okay.
C'est pour ça que je suis pas encore, mais sinon j'adore.
Ça marche. Bon, on mettra donc ton Instagram en dessous c'est en gentil. Description. Merci beaucoup, c'est très chouette. Et bah écoute, courage et bon vent, comme
merci,
on dit.
Merci Antoine.
Pour ta prochaine affectation, en te souhaitant tout le succès que tu as pu connaître ici et plus encore.
C'est gentil.
Merci Max.
Merci à toi mon gars.
J'espère que ce dernier épisode de Smartfire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre application de podcast préférée, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Je vous rappelle que c'est extrêmement important pour le référencement du podcast et ça m'aide à avoir des invités toujours plus incroyables et à vous faire des épisodes toujours plus qualitatifs. Merci beaucoup et à la prochaine sur Smartfire.